Bonjour, bande de belles personnes. J'espère que vous allez bien en ce l'an de grâce 2025. Quel jour sommes-nous? Lundi 13 janvier, nouvelle semaine. Un peu de matinée, Étienne, un peu d'infos, un peu de revue de presse. Sachant que je repars en question pour un champion mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi. 7 jours de questions pour un champion, donc il n'y aura pas de revue de presse. Bah, du coup, je vais en faire ce matin et demain matin aussi. Voilà. Y a un monde où je pourrais en rajouter une le samedi matin, en vrai. Ça en ferait 3 quand même. On va voir. Voilà. La voix cassée, la voix qui va. Ça va, Anissa? Merci beaucoup à tous ces petits subs du bon matin. On voit la force à Lavande Céleste, qui a un très joli pseudo, mais qui a passé une nuit un peu compliquée. Ça arrive, merci. Moi, ça m'arrive quand je joue à TFT. Très mauvaise idée de jouer à TFT pour s'endormir. Parce que tu ne t'endors pas, en fait. Est-ce que j'ai kiffé Cyberpunk 2077 hier? Shydro, j'ai adoré. Adoré notre invité aussi. C'était trop bien. Il y a trop de messages. Tu tournes combien d'émissions durant cette semaine de tournage? 42. 7 jours, 6 émissions par jour, 42 émissions. T'es bien après. T'es bien dans le question pour un champion après. Ouais. C'était bien hier. C'était bien. C'était très sympa hier. Attends, je vais remercier les subs, parce qu'il y a plein de subs de bon matin là. Hop, 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 ça fait des jolis. Voilà. Y aura Rayou. Oui, oui, oui. Il faut plus de live avec Trixie, je suis d'accord. Ouais, il y aura Rayou. Rayou, 4 ans qu'il annonce, plus peut-être même, qu'il annonce sa participation à Question pour un champion, c'est pour la semaine prochaine. Voilà. À la fin de cette session de 7 jours, hein, dans les derniers jours, il y aura mon Rayou, il y aura mon Étoile, qui va jouer à Question pour un champion. Je lui souhaite le meilleur, bien sûr, même s'il sera traité comme tous les autres candidats. Et on aura une diffusion à peu près 2 mois après, puisqu'on a à peu près 2 mois d'avance sur les enregistrements. Voilà, et évidemment, on s'est pas mal parlé avec Rayou là, ces derniers jours. On a pris le train ensemble pour Montpellier pour aller voir Zerator pour le stream de jeudi soir chez Zera Boat. Et donc, on a passé le voyage aller ensemble et on a beaucoup discuté, notamment de questions pour un champion. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit qu'évidemment, on ne leakerait pas, ni lui ni moi, le résultat de cette émission, peut-être de ces émissions, s'il y en a plusieurs, s'il gagne plusieurs fois, et qu'on ne leakerait pas une victoire ou une défaite, et qu'on tiendrait notre langue pendant littéralement 2 mois. Il est stressé de fou. Ouais, mais c'est parce qu'il est exigeant. C'est un garçon formidable. Merci beaucoup, Websurfer. Je vois que tu n'accroches pas trop à Cyberpunk, mais tu as aimé le live quand même. C'est vrai que Trixie était incroyable. Ce soir, il y aura un petit live gaming solo sur Cyberpunk. On va reprendre le jeu depuis le début, puisque je joue sur un autre PC. On va recréer un perso et on va partir peut-être sur une autre option de début de jeu aussi. S'il gagne les autres émissions, ce seront sur la même session. Je ne peux pas dire cartouche, je ne peux pas dire. On rentre dans le secret professionnel là. Merci beaucoup, Mikey, pour le message à l'instant. Il démonte le plateau entre chaque session. Oui, tout à fait. C'est un immense studio, mais qui ne sert pas qu'à question pour un champion. Tu connais la date à laquelle l'émission sera diffusée? On enregistre quoi? Mi-janvier là? Mi-janvier? Un peu plus que mi-janvier? Ouais, ce sera. Je pense qu'on est sur la fin mars, à peu près. Ouais, tu lis vite, dites donc oui, mec, c'est la seule chose que je sais faire correctement. Je ne fais rien de bien dans ma vie, mais je lis très vite. C'est un super pouvoir que j'ai depuis l'enfance. C'est le seul truc que je fais vite. Pas très rapide dans ma tête, pas très rapide avec mes jambes, mais par contre, je lis vite. Merci Café au lait pour le soutien. Merci Melissa Queen pour le 17e mois, c'est beaucoup quand même. Merci Maelja pour le 2e mois d'abonnement, Florent 83 pour le Prime, Soltix pour le Prime, Eifer J pour le 22e mois. Merci Aline 41 pour le 24e mois, nom de Dieu. Moumouren Desmouettes pour le 5e mois, vous avez régalé. Gigi de Montréal, on nous regarde depuis le monde entier. Little Sushi, à l'instant, Mix PRTZ, comment vas-tu mon ami? 23 mois d'abonnement, merci à vous. Pour la force que vous donnez, comme Justine, à l'instant, pour un 12e mois. Justine, merci. Caïs, c'est joli, Caïs. Donc je dis, mais Caïs, du coup? C'est joli, Caïs, son prénom? Trop joli. Ça prend combien de temps de monter le plateau de questions pour un champion? Je sais pas, Mourenne des Mouettes, c'est pas moi qui le monte. Hein. T'as cru que la veille du tournage, j'allais dans le studio avec mon petit cruciforme avec mon petit tournevis. Je sais pas si tu vois là, un décor de télé. Je sais pas monter une armoire Ikea. Caïs, ça ira.
Ok. Non, mais en vrai, je sais pas, j'ai aucune idée. Je dirais une journée, je pense.
Une journée et demie, une journée de montage, plus le réglage des lumières, tout ça, des caméras. Ouais, je dirais une journée et demie, quoi.
En vrai, je sais pas changer une ampoule, moi, t'imagines. Peut-être pourrait me laisser 2 mois, il serait pas monté le studio.
Merci, mon gâtre TV, tu régales, merci pour le soutien.
Ah, je suis nul, je suis nul. Ah, j'essaye, hein, mais là, j'ai une chaise de gaming à monter que m'a offert mon amoureuse pour Noël. Bah, je peux dire qu'elle est pas montée, la chaise de gaming. Hein. Hein.
Comment s'est passée la course de mercredi? Formidable. Merci, grande madame, pour le 17e mois. Tu as le replay. Sur la chaîne YouTube, bien sûr. Même sur la chaîne Twitch, si t'es abonné. Hein, parce qu'on est allé courir avec un grand champion paralympique. Un petit stream IRL en course à pied avec ma célèbre poussette de stream la semaine dernière. Juste avant de partir à Montpellier voir Zera. Et c'était super chaud. Premier message de Vipsy sur cette chaîne. Ça se célèbre un premier message. Bienvenue Vipsy. Voilà, voilà. Donc c'est ton premier message sur ma chaîne. Et tu me demandes qu'est-ce qu'il devient Julien Lepers. Voilà. Merci Furet Vénère pour le 2e mois, tu régales. Parce qu'en fait, un premier message, c'est très important, un premier message. Un premier message, c'est... voilà. Il y a des gens qui se font ban dev pour un premier message ici. Parce que je me dis que quand tu démarres mal, souvent ça enchaîne mal. Et il y a des gens qui commencent par un bonjour, bonjour à tous, bienvenue à la communauté, c'est ma première fois sur cette chaîne. Voilà. Et ton premier message, c'est qu'est-ce qui devient Julien Lepers? Eh bien, c'est un message intéressant. C'est un message intéressant, je te remercie de m'avoir posé la question. C'est une question extrêmement importante. Je pense que pour l'avenir de notre pays, on va beaucoup parler de l'avenir de la France. Ce matin, avec la question du budget, des retraites, tout ça. On va parler de l'avenir du monde aussi, avec les conséquences de l'élection de Donald Trump. Et je pense qu'effectivement, ce que devient Julien Lepers, c'est une vraie bonne question. Essentielle. Et je vais te répondre. Merci Furious Nuts. Je voulais absolument remercier pour le prime. C'est une très bonne question. Je te remercie de m'avoir posée. Et je vais répondre à cette question. Qu'est-ce que devient Julien Lepers? Merci Vincent Sixième pour le soutien et pour le message. Je vais te répondre. Qu'est-ce que devient Julien Lepers? C'est une vraie bonne question. Je n'en sais foutrement rien. Voilà. Je n'en sais rien du tout. Mais rien du tout. C'est-à-dire que Julien, dans les mois qui ont suivi son départ, hélas, de Question pour un champion, parce que c'est un immense présentateur, Il a fait un peu le tour des plateaux, il était un peu partout, il a beaucoup parlé de ça, presse écrite, radio, télé, il a fait des émissions, tout ça. Et puis d'un coup, il a disparu. Niet, nada, Walou, Peanuts, on parlait de Furious Nuts, mais rien quoi. Silence radio, mais rien, 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 rien. Il était actif sur les réseaux, pas un tweet, rien. Soussou, ah, j'ai pas vu ton premier message, attends. Attends, Soussou. Je rate des trucs, c'est l'âge, ça. Coucou, ça va? Voilà, Soussou, c'est un beau premier message, ça. Il est très bien, ton premier message. Et du jour au lendemain, voilà, il y a quelques mois, il est silence total, quoi. Moi, je me suis même inquiété. Vraiment. Je me suis dit, merde, il est malade, il y a un problème. C'est bizarre que quelqu'un qui communiquait quand même beaucoup... j'adore... Rocktalim, je connais ce pseudo, 40 mois d'abonnement. Merci Sugar Frog, tu régales, merci pour le 13e mois. 40 mois d'abonnement du Rocktalim. Et donc, je me suis inquiété pour lui, parce que je trouve ça très étrange. Et puis, j'ai vu une interview de lui très récemment, et en fait, avec une photo et tout, et en fait, il est en pleine forme. Je pense juste qu'en fait, il se repose. Voilà. Il a bien bossé toute sa vie, c'est quelqu'un qui s'est dédié à une émission, à Question pour un champion. Hein, qu'il a présenté pendant 27 ans, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, je pense qu'il goûte un repos bien mérité. Donc, s'il vous plaît, pour répondre à la question tout à l'heure, qu'est-ce que vient Julien Lepers? Eh bien, laissez-le tranquille. Laissez-le se reposer. Il l'a bien mérité. Voilà. Je ne mets plus mon réveil pour tes streams que pour la fac. C'est terrifiant. Oh, merci Forcret. Mais alors, du coup, les jours où je ne stream pas, comment tu fais? Tu ne te lèves pas? Merci Gaga pour le 13e mois. Ça fait combien de temps que tu animes le jeu? 9 ans.
L'année prochaine, ce sera ma 10e saison. Salut Poppy Pop, bienvenue. Il est très bien, Furious Nuts. Ton premier message, il kiffe. Il a acheté une villa à Los Angeles. On va parler de Los Angeles. Yes. Le Yas. Le Twittos. J'espère qu'effectivement, il n'a pas acheté une villa à Los Angeles, parce que ça, ça pue, ça. Merci, Democlas, qui a passé un bon moment devant le Samplay d'hier soir. Samplay qui est en replay. Hein. Samplay qui est en replay avec Trixie. Donc, on a découvert Cyberpunk 2077, auquel je vais jouer en solo ce soir. Et vous l'avez en replay sur la chaîne Twitch, si vous êtes abonné, et sur la chaîne YouTube à partir de 17h cet après-midi, avec mon ami Mathieu qui va le poster tout à l'heure. T'as eu comment d'ailleurs la place pour lui succéder, demande Hypno 13 à propos de Julien Lepers. Je l'ai poussé dans l'escalier. Voilà. En fait, j'avais noté que Julien avait un sens de l'équilibre un peu précaire dans les escaliers. J'avais noté ça parce qu'on s'était croisé un jour à Europe 1 et j'avais vu qu'il avait du mal dans les escaliers. Je pense qu'il y a un petit problème de hanche. Et en fait, comme moi, je voulais évoluer du journalisme vers l'animation de jeu, et donc je me suis arrangé pour le croiser régulièrement dans le studio où il tournait. Voilà. Et un jour qu'on était tous les deux tout seuls, en haut de l'escalier, voilà. Hop. Et voilà. D'autres questions ? D'accord avec toi sur ton avis sur Villebrequin. Merci Mix, on va en parler. Une petite balayette, ouais. Petite balayette. Voilà. C'est la première fois que je raconte la vraie histoire. Ouais. Souris clavier, on est sur du Logitech. Logitech clavier LOL. Parce que moi je suis un fou de LOL. Hein. Je comprends rien à ce jeu. Ah, je vous kiffe. J'ai failli recracher mon thé sur mon bureau, me dit poum. Il y a un clavier, il y a un PC qui a failli mourir ce matin. Hein, moi, je ne crache plus sur mon bureau parce que ça nique des tables de mixage, des claviers et tout, quoi. C'est une bonne situation, c'est animateur ? Non, clavier musique. Streamer, c'est mieux. C'est mieux. Non, animateur, non. Non. Oh, le Wooting, c'est un super clavier, ça. Kaïs, j'ai failli acheter ça. Prise de parole très engagée sur l'affaire Villebrequin, vraiment inspirant. Merci Hazard, on va en parler. Moi, j'ai vu la question d'un viewer sur les contrats télé, c'est pour une ou plusieurs saisons, ça dépend du contrat, il n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle. Ça peut être une saison, ça peut être plus, voilà. Il n'y a pas de règle. Qu'est-ce que je pense du retour du Big Deal avec Vincent Lagaffe ? J'ai vu la question plusieurs fois, je n'y ai pas répondu parce que je n'ai pas de réponse. Donc, je réponds à cette question, je réponds ma réponse qui n'est que je n'ai pas de réponse, je n'ai pas regardé. Je regarde pas. Je ne vais pas le dire, mais je ne regarde pas la télé. Merci Angel PSD pour le soutien. Merci Gaga. Je ne regarde pas la télé, je n'ai pas le temps. Ça veut dire que tu n'aimes pas ce que tu fais ? Ah bah si, ça n'a rien à voir. Ah bah si, j'adore. Ah bah si, ça n'a rien à voir. Ah non, mais j'aime pratiquer la télé, c'est juste que je n'ai pas le temps de la regarder. Ah non, je kiffe mon métier par contre. Ah non, c'est le seul métier que j'ai envie de faire. J'adore Question pour un champion, je kiffe cette émission. C'est un bonheur à faire. Et puis de temps en temps, je passe devant parce que je passe chez des gens qui la regardent. Et je regarde et franchement, je me dis que c'est une belle émission. D'abord, je me dis quel beau gosse. Hein ? Déjà, je me dis quel beau gosse. Tu sais, parfois, ça m'arrive de passer devant un poste de télé vers 18h10, 18h30, allumé sur France 3. Et là, je fais « Waouh, quelle prestance ! Quelle présence ! Quelle aura ! Quel halo ! » On est à la limite de la sainteté, quoi. Et après, je me rends compte que c'est moi. Et après, je regarde... Bon, après, une fois le choc visuel établi, eh bien, je me penche un peu sur le jeu et je me dis, mais il n'y a clairement pas une autre émission dans le PAF mondial, hein, dans le paysage audiovisuel. Donc, c'est pas le PAF, c'est le PAM. C'est pas le PAF. Paysage audiovisuel français, le paysage audiovisuel mondial, il n'y a pas une seule émission qui arrive à la cheville, à l'ongle de cette émission. Quoi. Donc j'adore la faire. Après, j'ai pas le temps de regarder la télé. J'ai, j'ai une famille, j'ai Twitch, je fais un peu de sport.
Hypnose 13. Putain, Hypnose 13, ça fait 10 fois qu'il pose la question, je lui réponds parce que je pense qu'il en a pour 10 ans sinon. Du coup, je ne saurais jamais si tu as candidaté ou si on t'a directement recruté, puisque je doute qu'il y ait dans les petites annonces cherche animateur pour succéder à Le Père. Je voulais seulement savoir si tu avais fait la demande ou si à l'inverse, c'était venu vers toi, mais tant pis. Bon, le problème, c'est que ça fait presque 10 ans que je présente l'émission et cette question m'a été proposée à peu près 2 milliards de fois dans ce stream. Il faudrait que je fasse une commande. Donc, je vais y répondre pour le 2 milliards de. Désolé pour les autres qui savent déjà tout depuis très longtemps. Donc. La chaîne voulait se séparer de Julien Lepers, ça se passait pas très très bien. Mais ils voulaient pas le dire, la chaîne. Donc du coup, ils ont organisé, avec la production, un casting surprise. Ils ont invité une quinzaine ou une vingtaine de présentateurs et d'animateurs de l'époque, garçons, femmes, de tous horizons confondus, pour, disait-il officiellement, un nouveau jeu qui allait être présenté sur une chaîne de télé. Ils n'avaient même pas dit si c'était TF1, France 2 ou France 3, ils n'avaient pas dit. Donc la boîte de prod avait contacté cette trentaine de personnes en disant voilà, on a envie de lancer un nouveau jeu sur une grande chaîne de télé qui s'appelle comme ça. Ok, voilà. On vous envoie la mécanique. La mécanique du jeu, c'est les règles. On vous montre comment ça se passe et tout, et vous passez un casting. Ils m'envoient un gros document de 30 pages qui m'explique comment va marcher ce nouveau jeu. C'est un nouveau jeu. Et quelques jours plus tard, j'ai bossé la mécanique parce que je suis bon élève, et j'arrive sur place. Et effectivement, je vois un studio avec un décor qui n'avait rien à voir avec Question pour un champion, un jeu qui n'a rien à voir avec Question pour un champion, un public, les gars, pour un pilote, c'était incroyable. Et là, je me dis, waouh, il y a des moyens. J'étais assez impressionné. Et donc, je passe ce casting pour ce nouveau jeu, puisque c'est ce qu'on m'avait raconté, quoi. Et une trentaine de personnes, je dirais ou 20, j'exagère peut-être, passent ce casting pour un nouveau jeu. Incroyable. C'est une vraie histoire. Moi, c'était la première fois que je passais un casting pour un jeu, puisqu'à la base, j'étais journaliste, présentateur d'infos. Et je m'amuse comme un petit fou, je rigole, je trouve ça très très drôle. En même temps, il n'y a aucun enjeu pour moi, puisque je fais ça un peu pour rigoler, et jamais je me dis que je vais présenter ce jeu, puisqu'il y a plein de candidats, concurrents. Je les connais tous quasiment, parce que je les croise. Et puis, je sais que des copains et des gens très très doués, et bref. Voilà. Et les semaines passent, et rien. Merci Maximo de la Vego. Merci C'est où 39, merci Audi Doré, merci Ticlem, vous êtes formidable, merci pour les soutiens. Voilà. Et les semaines passent, il ne se passe rien, je me dis, j'ai pas dû être très très bon puisque personne ne me rappelle, ce qui ne m'a pas beaucoup surpris. Et puis un jour, j'étais dans mon bureau de France 3, où c'était juste après le journal le 12-13. Voilà. J'étais juste après j'avais un petit bureau, mon bureau de journaliste, voilà. Et je reçois un coup de fil de la patronne de France 3, que je connaissais bien puisque j'avais bossé avec elle sur les documentaires historiques sur la Seconde Guerre mondiale. C'était une passionnée d'histoire, c'est une femme que j'aimais beaucoup. On avait bossé sur des émissions extrêmement sérieuses, tout ça, donc c'était la patronne de France 3. Et c'était une femme de caractère. C'est une femme qui n'appelait pas pour rien dire. Voilà. Elle m'appelle et elle me dit, Samuel, je sais que tu as passé un casting pour un jeu. Là, je panique. Parce qu'elle le dit avec un ton très sérieux. C'est un peu une patronne. Et elle me dit, je sais que tu as passé un casting pour un jeu. Or, je n'en avais parlé à personne. Parce que la boîte de prod m'avait dit, c'est un jeu pour une chaîne de télé, mais elle n'avait pas dit pour France 3. Elle m'avait dit pour une chaîne de télé. Et là, je fais, ouïouïouï. Et là, je sens la sanction. Je sens le petit coup de bâton derrière la nuque. Voilà. Et je sens qu'elle va m'engueuler. En plus, je sais qu'elle est capable de m'engueuler parce que c'est une femme de caractère. Merci Despotique, merci Momo Fraise. Vous êtes formidable. Et elle me dit, je sais que tu as passé un casting pour le jeu. Oh, je commence à m'excuser direct. Je dis, je suis désolé. Oui, je n'en ai pas parlé parce que c'était un peu pour rigoler. C'était pas très, très sérieux. Voilà, mais bon, voilà, je pensais pas qu'il fallait que je te prévienne. Panique, tirage d'oreille, exactement. Mix. Merci Kirichou. Un peu la panique. Donc je commence à m'excuser. Elle m'interrompt. Elle me dit, chut. C'est une femme un peu de caractère. Chut, tais-toi, t'as rien compris. Ok, je me tais. C'est vraiment comme ça, c'était très drôle comme scène. T'as rien compris. J'ai envie de lui dire, c'est pas la première fois. T'as rien compris. Et elle me dit, je cherche le remplaçant de Julien Lepers à Question pour un champion. Et c'est toi.
J'ai mis un certain temps avant de comprendre tous les mots de la phrase. C'est-à-dire que, attends. Donc, alors, moi, je suis journaliste d'info depuis, à l'époque, 20 ans. Je présente des JT, tout ça. Elle me dit que je vais présenter Question pour un champion. Alors première réaction, c'est qu'est-ce que c'est Question pour un champion ? Merci, Kaïch. Première réaction, c'est qu'est-ce que c'est Question pour un champion ? Parce que moi, je regarde pas trop la télé. Je me dis, ah oui, Question pour un champion. Ah oui, attends, là, Question pour un champion. Le jeu mythique, là, le jeu qui dure depuis 30 ans, là. Et là, je fais, attends. Et donc, je dis, ouais. Et là, je fais, Julien Lepers. Julien Lepers. Le Julien Lepers. Pour le coup, je le connaissais, lui. Je l'avais déjà croisé, je lui avais même déjà dit que je l'adorais et tout, devant Europe 1. Et là, je fais attends. Donc là, au bout de quelques secondes, je comprends. Et donc, je lui demande, mais c'est quoi l'histoire ? Qu'est-ce que tu veux remplacer ? Question pour un champion, quoi. Hein, deuxième question, il va venir quoi ? Julien Lepers. Biftec, tu crois pas si bien dire. Dire. C'est quoi cette histoire de remplacer Julien Lepers ? Il s'en va, il prend sa retraite. Elle me dit non, voilà, je veux plus qu'il présente le jeu. Ça, voilà, ça, bref, elle me donne plein de raisons, notamment les audiences qui baissaient depuis plusieurs années. Elle me dit, voilà, il est au courant ? Non, pas encore. Le monde de la télé, quoi. Enfin, le monde de l'entreprise, quoi. La violence. OK. Elle me dit, est-ce que t'es OK ? Voilà. Est-ce que t'es OK ? Parce que... Et là, je lui dis, et là, dans ma tête, je sais pas, moi, les gars. Je présente le JT depuis 20 ans, qu'est-ce que je vais foutre à animer un jeu, quoi. Et en même temps, il y a un truc, il y a une petite voix à l'intérieur qui me dit think about it, parce que je suis un peu bilingue, je pense beaucoup en anglais, pas du tout, je suis une tanche en langue. Think about it, mon vieux pépère, c'est quand même un truc un peu étonnant, quoi. Voilà. Il y a un truc, une petite voix qui me dit, voilà, c'est peut-être un truc. Et donc je lui dis, donne-moi 2 jours. 2 days, en anglais. Ouais, je suis assez, j'adore l'espagnol. 2 days. Et donc, et là, j'en parle à mon amoureuse, évidemment. Voilà, j'en parle à Grégoire, qui est un ami et un producteur de télé qui me connaît par cœur, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a toute ma confiance. Et je l'appelle et je lui dis, on vient de me proposer Question pour un champion. Qu'est-ce que je fais ? Lui, il sait que je suis journaliste, que je suis passionné de politique, blablabla, blablabla. Il réfléchit 30 secondes et il me dit, écoute, pour n'importe quel autre jeu, je t'aurais dit non. Mais pour Question pour un champion, tu vas l'accepter parce que ce jeu est historique et que ça va peut-être être une vraie histoire. Ça va être compliqué, ça va être dur. Tu vas remplacer un mec qui a depuis 27 ans. Il y a une partie du public qui va te détester parce que tu vas remplacer un gars que les gens aiment, qui a depuis très longtemps. Mais je te connais, tu vas le faire. Voilà, ça va être dur au début, mais tu vas réussir parce que tu es un petit peu dur au mal, tu es un peu têtu et tu vas nous faire ça. Je rappelle la patronne de France 3, je dis « let's go ». Voilà. Et puis, ça a commencé comme ça. Bon, effectivement, ça a été dur, ça a été compliqué. Puis au bout de 18 mois, grosso modo, ça l'a refait. Les audiences sont parties à la hausse, ce qui était l'objectif. Et en gros, on a sauvé le jeu. On a sauvé le jeu qui faiblissait, qui devait un petit peu s'arrêter. En gros, c'était un peu le projet. Et on a fait repartir les audiences à la hausse. Et là, le jeu, il a 36 ans, je crois. Et il se porte 36 ans. Il est en 88, 36 ans. Et il se porte comme un bébé, comme un charme. Voilà, voilà comment je suis. C'est la vraie histoire. Voilà. Le problème, c'est que cette histoire, je l'ai racontée à peu près 1 milliard de fois. Voilà, mais c'est comme ça, ça marche comme ça. Voilà ce qui s'est passé. C'est la vraie histoire, mot pour mot. Hein. Voilà. Donc, et je ne regrette pas, puisque ça fait 9 ans, 10 ans l'an prochain, et que je n'ai jamais présenté un programme télé aussi longtemps. Parce que j'ai fait plein de trucs dans ma vie, et j'aime bien changer d'aventure de temps en temps. J'aime bien me relever des nouveaux défis. Et je ne suis jamais resté 9 ans au même poste. Et donc, pour répondre à la question tout à l'heure, est-ce que j'aime Question pour un champion ? Oui, j'adore. J'adore. La réaction de Julien Lepers, colère. Donc, tu as le pauvre. Lui, il ne voulait pas arrêter, lui. Lui, il ne voulait pas arrêter, Julien. Alors, du coup, comme vous l'avez compris, quand on m'appelle, je demande s'il est au courant. Non, un peu gêné, Papy Sam. Tu vois ? Et je me dis, eh ben, dès que l'info va sortir, je vais appeler Julien. J'avais son téléphone. Je vais appeler Julien, parce que je voulais qu'il sache, pour répondre à la question qui m'a été posée tout à l'heure, que je n'avais pas postulé à ce jeu. Hein, parce qu'en fait, moi je ne postule jamais à un poste qui est occupé. J'ai vu dans ma carrière, je pourrais vous donner des noms assez rigolos, notamment un nom d'un mec qui était un peu spécialiste de ça dans ma génération. Beaucoup de gens postulent à des postes déjà occupés. Dites donc, monsieur le patron de la chaîne, là, j'aime bien cette émission, là, moi. Bah oui, mais il y a déjà quelqu'un. Ouais, mais j'aime bien cette émission, là. Non, mais il y a déjà un présentateur, là. Ouais, mais j'aime bien cette émission. Tu veux le poste du mec là ? Voilà.
Les mecs comme ça.
Je pourrais vous en citer un, c'est un champion. Que j'ai bien connu. Et moi, je fais pas ça. Je ne postule jamais un poste occupé. Voilà, j'ai pas beaucoup de règles. Voilà, j'en ai quelques-unes. Dans la vie, il faut des règles. Je ne postule jamais à un poste occupé. Je postule à un poste qui n'est pas occupé, c'est-à-dire la personne est partie, elle a démissionné ou elle a été virée, puis la chaîne cherche un remplaçant. Okay. Ou je postule à une nouvelle émission, mais je n'ai jamais postulé de ma vie à une émission où il y avait déjà un présentateur. Donc, je me dis, dès que l'info va sortir, je vais appeler Julien, je vais lui expliquer ça, que je n'ai pas postulé, parce que c'est l'histoire du casting et tout. Et je l'appelle, et il était triste et il était en colère, mais pas contre moi, parce qu'il savait, parce qu'il connaît l'histoire, parce qu'on lui avait raconté l'histoire du casting, du faux casting, etc. Et, tout. Et donc il savait que depuis au moment où je passais le casting, je ne savais pas que c'était pour question pour un champion, et il savait aussi de toute façon que si j'avais refusé, parce que j'ai failli refuser, hein, eh bien en fait, ils auraient proposé à quelqu'un d'autre, puisqu'en fait ils avaient décidé de virer Tête de Neuil. J'aime bien ce premier message, KTZ, FN ou RN d'ailleurs. T'as actualisé ton pseudo ou pas ? Et KTZ, son premier message, c'est Tête de Neuil. Voilà. J'aime bien, c'est inspiré. Ça croustille, ça sonne. Voilà. On va pas le bannir, on va attendre son deuxième message. FN, c'est Fortnite ? Ou alors c'est un gros raciste, on sait pas. Hein. Je me méfie toujours. Hein. Ouais. On va voir. On va attendre le deuxième message, et pour le ban def, on va attendre le deuxième message. Non mais c'est Tête de Neuil qui est emmerdant plutôt. Et donc voilà. Et donc Julien, du coup, il a jamais été en colère contre moi. Il était en colère contre la chaîne, bien sûr. Voilà. Ce que je peux comprendre d'ailleurs. On attend le deuxième message avec plaisir. Je pense qu'il se concentre pour son deuxième. Ouais, puis je pense qu'il se concentre pour pas faire de faute parce qu'on va pas le rater. Après, c'est peut-être un joueur de Fortnite raciste, on sait pas ça. Utopia World. Donc, si on vote RN, on a un gros raciste. Bah, ou t'es un gros raciste, Utopia World, qui vote donc RN. Hein. Peut-être pas d'ailleurs. Peut-être que c'est un LFI qui veut juste provoquer le débat dans le chat. Ou t'es un gros raciste, ou tu connais pas ce parti. Tu connais pas son programme, tu connais pas son histoire, tu connais pas ses prises de position de ses dirigeants, tu connais pas ses dérapages, tu connais pas les condamnations judiciaires de ses membres. Enfin bref, tu votes pour un parti que tu connais pas. Quoi. Dans les deux cas, c'est pas brillant. Hatchoum, je vote RN. Ici, il y a des gens de toute obédience politique. Je trouve ça très très bien d'ailleurs qu'on puisse discuter avec des gens qui ne pensent pas comme soi. Je ne suis pas raciste et ce n'est pas ton rôle de faire de la politique. Hatchoum, c'est le rôle de tout le monde de faire de la politique. Parce que nous sommes dans une démocratie, n'en déplaise à ceux qui ne voudraient pas qu'on puisse s'exprimer. Et dans une démocratie, eh bien, n'importe qui peut donner son avis sur n'importe quel sujet du moment qu'il respecte la loi. Voilà, c'est le principe de la démocratie. Donc bien sûr que c'est mon rôle de faire de la politique, comme c'est ton rôle de faire de la politique. D'ailleurs, quand tu dis « je vote RN », tu fais de la politique. J'aime bien lancer un petit sujet là. Hein, ça s'énerve. Mais Hatchoum, à mon avis, c'est parce qu'il est en colère. C'est parce que je pense qu'il est un petit peu enrhumé. Son pseudo, c'est Hatchoum, et du coup... Voilà. Le petit rhume, le cerveau un peu bloqué. Et du coup, merci Célia La Menace pour le 3e mois. Merci Claire et Dodi pour le 41e mois, c'est énorme. Merci Bimbo Jet pour le 35e mois. Merci Ponziliona pour le 5e mois. Merci Kierichou pour le Prime. C'est incroyable. Ah oui, Julien, il n'a pas arrêté volontairement en Workos. C'était dur en vrai. Alors, j'aime bien le mot de générique. Tu peux être raciste sans le savoir. Le racisme, c'est comme le sexisme. Si tu soutiens du racisme, si tu soutiens un mouvement qui, dans son histoire et dans son actualité, a tenu des propos racistes, voilà, pour lequel il y a des déclarations, il y a des condamnations judiciaires, il y a plein de choses. Si tu soutiens du racisme, même si c'est involontaire, tu es raciste, dit générique. Dis-moi, je voudrais faire du stream de manière plus sérieuse, me dit Goldman officiel, est-ce que tu aurais des conseils ? Beaucoup streamer, être très présent, même si au début c'est pour devant un ou deux viewers ou zéro. Donc, t'as vu Mystérieuse ? Mystérieuse, il ou elle vote RN, il est là tous les jours, et je trouve ça très très bien. Je trouve très très bien qu'il y ait des gens de toute obédience qui puissent s'exprimer ici. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec vous qu'on peut pas parler ensemble. Et donc d'être là, de streamer le plus souvent possible, de trouver un contenu original et pertinent qui te ressemble, d'être toi-même. Par exemple ici, quand on me demande ce que je pense du RN, je le dis. Voilà, j'ai le droit de le dire, c'est ma chaîne et on est en démocratie. D'être toi-même et de kiffer ta vie et de donner du plaisir aux gens et d'en avoir toi. Et d'avoir un micro qui marche. Salut Mystérieuse. Tu vois, Mystérieuse est mon gueule. Il ou elle, je dis toujours elle parce que Mystérieuse, c'est un adjectif qui est au féminin. Donc je dis toujours elle, ça se trouve, c'est il. Et Mystérieuse mon gueule et dis bonjour. Et moi, je te dis bonjour aussi. Merci Nicolas. Merci Pimnet. Merci JK. Attends, j'adore l'ambiance ce matin. On va lancer la revue de presse par contre. Un conseil sur la calvitie ? Ben non, on va l'expliquer. Regarde ça. Je suis mal placé. Hein. Allez, je réponds à un ou deux questions et on lance la revue de presse, bande de beaux gosses. Salut Silence 02, qui nous parle depuis la Belgique, qui nous explique que le vote est obligatoire en Belgique. Penses-tu que cela changerait quelque chose si le vote en France l'était aussi obligatoire, au lieu de n'être qu'un droit de bon citoyen ? Alors Silence 02, je vais peut-être te surprendre, je pense pas qu'il faut que le vote soit obligatoire. Je pense que le vote doit rester un effort. Je pense qu'il faut voter. Je pense qu'il faut participer à la vie de son pays, voilà, et faire l'effort de se pencher sur les programmes, et même si ce n'est pas toujours très inspirant, ni enthousiasmant, ni folichon, alors que ces hommes et ces femmes politiques ne font pas toujours rêver. Mais il faut choisir le moindre mal, parce que quand tu ne votes pas, bah, tu laisses quelqu'un qui peut être plus extrémiste que toi voter à ta place, voilà, ce qui va infléchir sur la vie de la nation. Donc même si ce n'est pas toujours affriolant, même si moi je ne vote pas, si je ne vote pas sur le bureau, la route du bureau de vote en sautillant, en me disant « waouh, je vais voter », en me disant plutôt, oh là, c'est tout, c'est pas foufou quand même comme offre, mais bon, je vais essayer de choisir le moins mauvais. Si c'était obligatoire, cet effort-là, ça demande un effort de se déplacer en bureau de vote un dimanche où il peut faire beau, etc., plutôt d'aller se promener, faire un pique-nique ou que sais-je, ou rester tranquillement au lit à regarder des séries. Donc ça demande un effort et je pense qu'il faut que ça reste un effort. Alors que si c'était obligatoire, bah, forcément, t'as plus trop le choix, quoi. Et si le vote était obligatoire, deuxième raison, on ne verrait plus à quel point notre paysage politique n'est pas très séduisant. Vous savez que la participation électorale ne cesse. Le nettoyeur. Pourquoi mon dernier message a été contrôlé et supprimé avant d'être publié ? Je ne sais pas, je vais aller voir le nettoyeur. Ça marche encore de qualifier le... Attends, c'est quel ? Lequel ? C'est quel message ? Ah non, c'était un terme bloqué de chaîne. Ah oui, tu as utilisé le mot facho. Je sais pas, ça va être un terme qui doit... Ouais, je sais pas, peut-être que c'est un terme qui est pas validé ici, je sais pas. Ouais. Ouais. C'est l'automode, ça a été automatique. Qu'est-ce qu'on disait ? Donc oui, si le vote est obligatoire, donc tout le monde voterait quasiment, quoi. Et du coup, on ne verrait plus à quel point le paysage politique, le spectacle politique n'est pas très attirant, quoi. Hein, l'abstention ne cesse de progresser. Pourquoi ? Bah parce que parfois on est un peu feignant de faire l'effort de comprendre tout ça, ou parfois tout simplement parce qu'on fait l'effort et on n'est pas très séduit, quoi. On n'est pas très très séduit. Et si le vote est obligatoire, on ne verrait plus ça. Hein ? Il resterait le vote blanc ? Ah oui, il y aurait le vote blanc, ouais. Ah si, c'est vrai, il y aurait le vote blanc. Ouais, c'est vrai. Ouais, les gens, ils voteraient blanc. Ouais. C'est vrai, c'est pas con ça. Mais alors du coup, je reviens à mon premier argument. Je pense qu'il faut que ça reste un effort. Il faut que ça reste un effort. Merci Yo-Yo. Merci Nicolas. Blanc, juste ? Ouais, juste le blanc. Par contre, je suis pour la reconnaissance du vote blanc. Les électeurs du RN votent très blanc. On valide la blague de Newnen. Moi, je valide. Qu'est-ce qui est devenu le gars qui avait dit tête de neuil, là ? Il a écrit un deuxième message ou pas ? Oh, je suis très déçu. Il y a quelqu'un dont le premier message a été tête de neuil. Hein, c'est le message qui est épinglé, là. Qui a écrit un premier message qui était donc tête de neuil. C'est KTZ_FN. Et donc, j'ai dit, on attend avec impatience son deuxième message. Et vous savez quoi? Il a jamais écrit de deuxième message. Il est parti. C'est très décevant. C'est un copain à Bobinous, ça. C'est peut-être Bobinous, d'ailleurs. Ouais. Il se prépare. Non, il est parti. Ouais. Il est parti. Il a drop le mic. Ouais. Il s'est écroulé sous la pression. Il s'est fait pipi dessus, moi, j'ai envie de dire. Bon, bah, du coup, on enlève le message, alors. Même caca, peut-être. Ça veut dire quoi, tête de neuil? Je sais pas trop. C'est quoi, ce bruit? J'ai fait une connerie. Ça veut dire quoi, tête de neuil? Tête de neuil, on va aller voir. Je crois que ça veut dire tête de con, je crois. Tête de neuil. Je crois que ça veut dire tête de neuil. Tête de neuil, frère, je trouve, sur Internet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tête de neuil. Ah! Voilà. Alors, tête de neuil. C'est peut-être tout ce qu'il avait à dire. Alors, tête de neuil. Étymologie, sans doute redoublement hypocoristique, bien sûr, de nœud, dans le sens de imbécile, tête de nœud. Voilà, c'est ce que je disais. Tête de nœud, tête de nœud. C'est tête de nœud, en fait. C'est pas méchant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas été sanctionné. Il n'a même pas pris un Théo. On est comme ça, non? Salut Gérard Blanchard. C'est honteux? Non, c'est pas honteux. En vrai, ça se trouve, c'est drôle. On me dit que c'est peut-être même une ref sur YouTube ou TikTok, tu vois. Mais il n'y a pas eu de sanction, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on entendait le deuxième message, pour voir un petit peu l'explication, le pourquoi, le comment, le lore. Merci, les MX67. C'est quoi un TO? C'est un time-out, c'est un petit ban, mais provisoire. C'est un petit avertissement. Ici, les modérateurs, ils ont trois pouvoirs. Ils ont plein de pouvoirs en fait, mais ils en ont principalement trois. Ils peuvent supprimer un message quand vraiment ils ne respectent pas le cadre qu'on a fixé ici, c'est-à-dire tout peut se dire ici du moment que c'est légal et correctement exprimé et de façon relativement respectueuse vis-à-vis des autres viewers. Voilà. Et puis évidemment que les propos n'est pas discriminatoire à quelque niveau que ce soit. Donc on peut supprimer ce message, on peut mettre un time out, un TO, un petit ban provisoire de quelques minutes à celui qui l'a exprimé, c'est une forme d'avertissement en mode bon bah c'était pas terrible mais bon peut-être que tu peux faire mieux la prochaine fois, voilà. Et un ban def, voilà, c'est quand vraiment t'as dépassé les bornes et il y a plus d'espoir, voilà. Tête de chibre, ça passe. Tête de chibre, ça passe, ouais. Noy essaie d'utiliser le vocabulaire des jeunes actuels comme une boutade pour taquiner. Bon, premier message, c'est pas mal. Oui, c'est ça. Si c'est un habitué qui dit tête de Noy, je rigole. Je rigole. Mais si c'est ton premier message, tu te dis, où est-ce que tu veux aller comme ça? Où est-ce que tu veux aller? Hein? Tu vois, moi, je te rencontre dans la rue, tu viens me voir. Je t'ai jamais rencontré. Tu me dis, tête de Noy, je te regarde, je plisse les yeux. Mais où est-ce que tu veux aller comme ça? Quel chemin tu veux emprunter? Voilà. Et si jamais le deuxième message, il me dit tête de nœud, balayette, coup de coude, voilà, coup de genou, voilà, et on enchaîne, quoi. Voilà. Et je filme et je poste sur TikTok. Merci la marmotte folle pour le soutien. Je me prépare pour mes futurs combats parce que je pense à une nouvelle carrière, une reconversion dans le MMA. Pas les assurances, hein, l'octogone. J'y pense très sérieusement. Je pense que j'ai une petite carrière là-dedans. Quand tu vois la masse, quand tu vois le bonhomme, quand tu vois la forme, quand tu vois la santé, je pense que... Voilà. Je pense très fort à ça. Ouais. Bon, on lit les journaux ou pas? Parce qu'il est quand même... on a fait 43 minutes d'introduction là, avec vos bêtises, là. J'ai quand même raconté l'histoire de questions pour un champion pendant une heure. On y va, sommaire, let's go, parce que je vous quitte à 11h45, parce que j'ai une petite réunion. Puis après, il faudra que j'aille faire ma TVA, déclaration mensuelle de TVA, c'est que j'ai une vie passionnante, et que je prépare mes habits pour question pour un champion, c'est-à-dire que je choisisse mes t-shirts, c'est moi qui choisis mes t-shirts, et que je les repasse, c'est moi qui repasse, je suis un peu maniaque, et je les mette sur un petit truc là pour les, je sais pas, les vêtements quoi, un portant. Voilà. Donc j'ai une vie passionnante. Voilà. Et à 17h45, j'emmène mon petit dernier à chez l'orthophoniste, comme tous les lundis. Après, je reviens, je dîne avec mon amoureuse et les enfants. Voilà, comment s'est passée la journée. On regarde un petit peu les devoirs. On joue un peu. Et puis, quand tout le monde va au lit, on vient ici et on lance le petit stream solo cyberpunk. OK ? Voilà. Non, enfin, je voulais jouer à Valo, mais je pense que ce soir, on va jouer au cyberpunk. Demain, je joue avec Anaé et Sunday, on l'a pas dit encore. On fait un petit stream tous les trois demain soir. On va jouer à The Forest. Je crois que c'est un jeu qui fait peur. Salut, Kaïs. Bonne journée. Merci, Denis. Merci de la marmotte folle. Vous régalez ce matin. Est-ce que vous voulez un petit sommaire? Je vous montre ce qu'il y a dans les journaux ce matin. Comme ça, le sommaire, en quelques minutes, 5 minutes, vous avez l'essentiel de l'actualité. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé de rester 2 heures pour ceux qui n'ont pas de temps. Le 1 ou le 2, le 1, je crois. As-tu continué le mode histoire de GTA? Bientôt, cochonou. Non, c'est good, pardon. Yes, yes, yes. Ok, let's go, mystérieuse. Moi et bof, cette année, je découvre la vie sans enfants. Elles sont grandes et étudiantes. Ça fait bizarre après 20 ans à s'en occuper tous les jours. Tu m'étonnes, c'est du boulot. Hein, c'est du boulot. C'est le plus beau boulot du monde, mais c'est du boulot. Valorant, c'est pas trop le moment de faire de la rencaine en début de saison. C'est assez violent en ce moment. Ah oh bah non, moi je suis en rencaine en ce moment. J'essaie de lancer un nouveau compte là. Mais je vais essayer de jouer au nouvel agent là. Vous allez m'expliquer. Tu veux pas me coacher sur Valo, me dit Gunman officiel. Tu veux que je te coach sur Valo, moi? Tu veux être le pire joueur du monde? Mon pauvre. Ok, let's go. Tejo, si! Mais boy, à. Mais boy, à. A jugar! A jugar! Con Tejo! Si! Si, señor! Bon, alors, on va beaucoup parler de poétique ce matin. Au début, j'étais pas trop enthousiasmé, pas trop hypé. Par cette histoire-là, c'est toujours le budget, déclaration de politique générale de François Bayrou, le nouveau Premier ministre, les tensions sur les retraites. Et en fait, plus j'ai lu des articles ce matin, et plus j'ai trouvé ça intéressant, et même Penderos, j'ai la ref, plus j'ai trouvé ça intéressant. Donc on va commencer avec un article du Parisien. Entre la gauche et le gouvernement, la négociation de la dernière chance, qu'est-ce que c'est cette histoire? Les discussions continuent jusqu'à ce mardi, demain, jour de la déclaration politique générale du Premier ministre, c'est le discours, il va donner le cap un peu de son action. Aucun accord est encore ficelé sur la suspension de la réforme des retraites. Qu'est-ce à quoi que cette histoire de suspension de la réforme des retraites? On sent que le Premier ministre veut s'attacher les faveurs de la gauche, peut-être pour pas être censuré, motion de censure, blabla, que cette histoire. Article du Parisien va tout nous expliquer. Thriller, merci pour le prime à l'instant. Merci de ton soutien. Alors, après, on ira voir une interview d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Nous voulons arracher des concessions pour les Français. La une de Libération, à la veille de la déclaration de politique générale de François Bayrou, le premier secrétaire du PS estime dans un entretien à Libé que le chef du gouvernement doit aller plus loin dans le compromis. Voilà, très bonne question. John Terry, après, est-ce que l'accord du PS, ça suffit pour pas être censuré? Très bonne question, mon ami. On va voir ça. Donc, on verra l'interview d'Olivier Faure. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il veut pour pas faire chuter le gouvernement? Et on verra qu'une partie de la presse, ça lui va pas du tout. Le Figaro, qui globalement est un journal qui estime que la réforme de retraite, elle n'était pas très agréable, mais elle était nécessaire pour l'équilibre des comptes publics, parce que pour des raisons de déficit, d'endettement, tout ça, le Figaro n'est pas très content. Et puis, ce n'est pas vraiment un journal de gauche, le Figaro. Donc, retraite, censure, Bayrou tente de jouer la gauche. Le Figaro n'est pas très content. Hein. Quand je dis le Figaro, c'est un... Voilà, c'est, en tout cas, le ton dans l'édito, parce que au Figaro, il y a des journalistes de très très différents et tout le monde n'est pas forcément d'accord au sein du même journal, mais globalement, c'est la totalité du journal. Voilà, la France faible, dit Vincent Trémollet de Villers. Nous sommes donc aux doléances de Marine Tondelier et d'Olivier Faure, la décroissance appuyée au bras de l'anarchisme. Petit four, impôts, suspension de la réforme des retraites, vous voyez un petit peu l'idée, c'est en mode, on dépense l'argent qu'on n'a pas, c'est une catastrophe. On va tous mourir. Voilà. Donc, on lira ce dossier dans le Figaro. C'est intéressant. Voilà. Les risques d'un Munich sur les retraites. Hein. La reculade des Européens devant. Le pareil est quand même fort. Hein. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Munich, c'est, je crois que c'est en 1938. C'est la reculade, le recul des pays européens devant le nazisme, devant la montée en puissance de Hitler. Voilà. Et carrément, quoi. Ça parle d'un Munich sur les retraites. Ça y va, quoi. Les Échos, pareil. Journal libéral, journal qui soutient les entreprises, journal qui voudrait qu'on aide plutôt les entreprises plutôt qu'on dépense l'argent public, etc., etc. Retraite, fiscalité, Bayrou et le PS prêts à prendre l'économie en otage. Carrément. C'est en fait. J'adore. Ça y va ce matin. Les Échos. Et ils ont vu la scène, ils ont raté la photo, ça a été trop rapide, mais ils ont vu à un moment Bayrou et le PS dans un petit bureau, avec une troisième personne qui était l'économie, ils étaient en train de prendre l'économie en otage. Pistolet sur la tempe, hein, en mode... Et, attendez, 1981 le retour, l'édito en bas à gauche là. 1981 le retour. Mitterrand, quoi, la première fois sous la cinquième que la gauche arrive au pouvoir. Donc là, voilà, on sent que du côté des, on va dire, de la presse, on va dire conservatrice, libérale, slash un peu de droite, eh ben, c'est un peu inquiétant, ça. Voilà. Pour des raisons d'équilibre financier, budgétaire, impôts, tout ça. Et justement, parce qu'ici, on est là pour rigoler aussi, mais pour essayer de comprendre. Merci Yann, merci. Non, ça va pour les bracelets Pokémon, Yann. Ils sont gentils, la question pour un champion. Donc, on est là pour comprendre. Et là, dans Le Monde, on a deux économistes qui s'opposent, qui ne sont pas d'accord sur cette question. Est-ce que la dette publique est vraiment alarmante ? Bingo ! Régulièrement, des gens... Salut, Poulidor. Des gens me disent ici, mais Samuel, on nous dit sans arrêt que c'est une catastrophe, que la dette explose, les taux d'intérêt montent, la charge de la dette, ce que coûtent les remboursements de la dette... à la France, la charge de la dette ne cesse d'augmenter. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas grave ? Certains disent que c'est pas grave d'avoir une dette aussi importante. Bim ! Deux économistes s'opposent dans Le Monde sur cette question. Il y en a un qui dit c'est grave, l'autre qui dit c'est pas si grave. Bien ou pas bien ? C'est intéressant, hein ? C'est bien, non ? Moi, je trouve ça intéressant. Donc, on lira ce papier. Et puis, on parlera pas que de ça ce matin, on parlera pas que de politique et de budget, on parlera aussi de ce qui se passe à Los Angeles, parce que moi, ces derniers jours, j'ai pas fait de revue de presse. Il y a un article dans... C'est dans quoi, ça ? Figaro ? Dans le Figaro, qui fait le point sur ce qui s'est passé, gigantesque incendie à Los Angeles, là. Ce que je fais sur une actu comme ça, c'est que je lis, en gros, tous les papiers dans les différents journaux sur le sujet, j'essaie de vous trouver le plus complet, et celui-ci, il est pas mal. 1 million de follow, gros GG. Merci, Wani, ça n'a aucun, ça n'a aucun sens, mais effectivement, j'ai 1 017 689 followers et j'en suis très heureux. C'est incroyable. Alors j'aime bien cette une de l'humanité là, qui est assez rock'n'roll. Voilà, vous avez peut-être reconnu Elon Musk, voilà, qui a piqué les lunettes à Michael Jackson manifestement. Et l'humanita, oh, l'humanité, l'humanidad, c'est parce que je suis un peu bilingue en espagnol. L'humanité considère Elon Musk comme le parrain de l'extrême droite mondiale. Dans une conversation publique avec la chef de l'extrême droite allemande, l'AFD, Alice Weidel, Elon Musk a en effet réitéré son appui au parti xénophobe allemand qui entretient une intolérable confusion entre nazisme et communisme. Hein, puisqu'en gros, d'après ce que j'ai compris, l'AFD, ce parti d'extrême droite allemand, explique que le nazisme était un mouvement de gauche, bon, qui est typique de la pensée d'extrême droite. Ça, régulièrement, il y a des gens qui disent « Oui, mais en fait, Samuel, t'as rien compris, le nazisme, parce que c'était NSPAD, le S était socialiste, donc en fait, c'était des gauchistes. » Hein ? Il y a des gens qui disent ça. Certains, hein ? Pas tous, quand même. Hein. Et donc, c'est un argument qui est repris par ce parti, et Musk soutient ce parti, donc l'humanité dit « Ça va pas, là. » Voilà. Le parrain de l'extrême droite mondiale, on dira. Ce papier qui est plus, d'ailleurs, sur cette tentation de certains Allemands de dire que le nazisme c'est un truc de gauche et pas l'extrême droite, que du soutien de Musk dont on a déjà parlé et dont on reparlera, puisque Musk, il s'ennuie, je pense. C'est quelqu'un qui s'ennuie. Il a décidé de peser sur la vie politique des États européens. Ça, c'est incroyable, c'est fascinant. Le mec, il n'a pas assez à faire avec ses fusées, ses voitures électriques, ses hyperloop, overloop, hula hoop, tutti quanti, là. Et donc, il a décidé de se mêler de la vie politique démocratique des pays européens et il dit par exemple aux Allemands il faut voter pour l'extrême droite. Ce mec s'emmerde. Fruity Loop aussi, ouais. Ce mec s'emmerde. Ça me fascine. Ça me fascine, ça. Ce mec s'emmerde. Donc on verra ça. TikTok. J'aime bien TikTok, moi. Non, j'aime bien TikTok, moi. Je viens de faire un. Moi aussi, je m'emmerdais ce week-end comme Elon Musk, mais je m'occupe pas de la vie politique de l'Allemagne. Enfin, j'appelle pas les Allemands à voter pour un parti en particulier. Et donc, quand je m'emmerde, plutôt faire ça, moi, je fais des petits posts sur TikTok. Et j'ai fait un post sur TikTok qui a fait 1,4 million de vues quand même ce week-end. On a bien rigolé, puisqu'en gros, j'ai vu. Ce week-end, je me suis un peu reposé, j'ai pas streamé. Et donc, j'ai vu sur les réseaux sociaux de partout, tout le monde donnait son avis sur la polémique Villebrequin. Hein, sur la polémique entre Sylvain Lévy et Pierre Chabrier. Mais tout le monde, quoi. Bah, les twittos, les influenceurs. J'ai même vu des streamers qui, en live, disaient « Ouais, non, c'est pas bien de prendre position sur ce truc, c'est leurs affaires. Voilà, on n'a pas à se mêler de ça. Je vais quand même vous dire ce que j'en pense. » Je suis tombé sur des streams comme ça, là, ce week-end. Oui, vraiment, ça ne me regarde pas. Mais bon, puisque je suis là, voilà. Bon. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout le monde donne son avis sur un truc. Et moi, au fond de moi, parce que, pour le coup, je connais un peu les deux. J'ai participé à une de leurs émissions. J'ai participé à un stream de Pierre. Donc, je les connais un peu. Je connais des gens qui ont bossé avec eux. Et en fait, leur bisbille, leur différend, leur guerre, je m'en bats les couilles. Voilà, je pense que c'est un truc qui les concerne. Et du coup, ils ont mis ça sur la place publique, je pense pour des mauvaises raisons, par rapport à leur communauté respective, parce que c'est des influenceurs. Mais en vrai, je pense qu'ils n'auraient pas dû le faire. Je pense que c'est un truc qu'ils auraient dû régler entre eux. Et donc, j'ai fait une vidéo. Tout le monde l'a vu, ma vidéo? Masterclass, quand même. Voilà, je l'ai posté partout, je l'ai posté sur Twitter. Et l'idée, c'était de faire passer un peu mon message, quoi. C'était un peu pour moquer des gens qui prenaient tous position sur ce sujet, quoi. Et donc, ça a donné ça. Et donc, voilà, c'est là. Voilà. Ce que je pense de la polémique Pierre Chabrier, Sylvain Lévy. Donc évidemment, je me suis dit, comme tout le monde en parle, ça va cliquer, les gens vont aller voir ce que Samuel Etienne pense de cette polémique Pierre Chabrier, Sylvain Lévy. Et je pense que j'ai fait une masterclass. Voici, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Voilà ce que je pense de cette polémique. Parce que je n'ai pas peur des mots, moi. Je ne mâche pas les mots, moi. Quand j'ai un truc à dire, je le dis. Et quel qu'en soit le danger, et quelles qu'en soient les conséquences, quand j'ai un truc sur la patate, quand j'ai un truc sur la conscience, je le dis. Et j'ai dit ça. C'est un propos assez construit qui m'a demandé pas mal de temps. Play. J'étais tellement fier de ma connerie. Il y a donc 1,4 million sur TikTok de personnes, plus d'un million sur Instagram et un certain nombre sur Twitter aussi qui ont cliqué sur cette vidéo parce qu'ils voulaient savoir ce que je pensais de ce sujet. Je suis très content de ma connerie. Voilà, comme le montre ce petit sourire. Narquois à la fin de cette vidéo. Voilà. Ce que je voulais dire sur cette vidéo, je voulais dire rien justement. Je voulais dire que ça allait regarder cette histoire et que, à mon avis, ils n'auraient pas dû en parler sur la place publique, régler leurs histoires entre eux et que surtout, on n'avait pas tous à donner notre avis. Parce que déjà, on s'en carre le cul de leurs histoires perso et encore plus de ce qu'on en pense. Donc moi, j'en pense rien. Bam. Voilà. Mais je pense que pour le coup, ma prise de position a été l'une des plus vues. Je suis très fier de cette connerie. Bien joué, Papy Sam. Voilà. Alors, je reviens à TikTok, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup TikTok. Voilà. Et effectivement, TikTok va peut-être disparaître aux États-Unis. Ça, c'est un truc qui dure depuis longtemps. Les États-Unis s'inquiètent beaucoup du fait que TikTok appartienne à la Chine et que la Chine, le pouvoir politique chinois, puisse se servir de TikTok pour obtenir des informations, notamment sur les États-Unis et sur les citoyens américains. Voilà, j'apprends dans Les Échos ce matin que la Cour suprême des États-Unis se penche sur le sujet et ne va sans doute pas sauver TikTok, Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, Washington va peut-être très prochainement obliger TikTok à se vendre. Voilà. C'est-à-dire à vendre à une entreprise qui ne soit pas chinoise. Voilà. Voilà. Et que ce soit plus chinois, que ce soit américain, par exemple. Voilà. En tout cas. Oh mon soutien. Oh là, il est bien celui-là. Attends, je l'épingle celui-là. Très beau message de Titia. Ah, tu l'as effacé? Ah, Anonyme 31, il l'a effacé, je peux plus. Il y a Titia 29 qui nous a fait un premier message magnifique. J'étais sur le point de l'épingler pour qu'on puisse profiter un petit peu de la qualité de ce message. Et il a. Ah merde, il a été supprimé. Ah, j'ai pas été assez rapide. Bon. Tant pis, parce qu'on avait un champion là. Un petit champion là. Ouais. Il y en a qu'on a un début d'année qui est fatigant. Et donc, voilà. Et alors, là où c'est compliqué, c'est que lui, c'est Trump. Lui, il est OK avec TikTok, lui. Alors qu'avant, il était très contre TikTok. Il a changé d'avis, finalement, il est OK. Alors, le problème, c'est que ça ne dépend pas que de Trump. Donc, on a. C'est possible que la Chine accepte de vendre, mais en fait, ce serait un peu. Tu sais, les Américains, ils ont décidé un truc, c'est un peu la guerre commerciale, quoi. Donc, on verra ça, comment ça se passe et tout. Mais très bonne question, en tout cas, quoi. Et qui seraient les grands perdants en cas de fermeture de l'application, bah, notamment Samuel Etienne, qui pourrait plus le dire des conneries sur TikTok. Merci Pizzovin, merci Ashvald, merci Sumsal, comment vas-tu? Merci Rob, non Bob Red Hand, Bob les mains rouges. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc on se penchera. Et puis on finira par un petit plaisir. Tuche, moi j'aime. La saga Tuche, les Tuches, des frites. Frites. J'adore. Moi je vais pas souvent au cinéma par manque de temps, mais voilà, je trouve qu'il y a des comédies françaises qui sont. Alors on aime, on n'aime pas. Moi j'aime les Tuches, voilà. Et là il y a un nouveau Tuche. Il y a un nouveau Tuche. God, Dieu. Hein. God save the Tuche avec les Tuches qui vont en Grande-Bretagne. Voilà. Et j'ai pas vu d'extrait, mais bon, moi je me dis, c'est aussi bien que les épisodes précédents. C'est sûrement très très sympa. Voilà. Voilà. On parlera de ça aussi. On finira sur une petite note légère. La French Tuche. Le titre, il est joli. Hein. La French Tuche. J'en ai pas encore vu un seul du moyen bof. Ça se regarde. C'est de la petite comédie sans prétention. Ça aère la tête. Ça aère la tête. Voilà, c'est pas du Kundera, hein, ça va pas changer la face du monde. Hein. Mais c'est très bien joué. Les acteurs sont exceptionnels. Claire Nadeau, tous. Isabelle Nanty, comment il s'appelle le patron là, qui est formidable. Jean-Paul Rouve. Bon, les acteurs sont incroyables. Si, ça se regarde. Moi, j'aime bien. C'est pas du David Lynch, voilà, bien sûr, Diesel. Et alors, hein, la vie, c'est ça aussi. Hein. Il faut que tu le prouves. Il faut que je prouve quoi? King Ursule. Là, King Ursule, il a écrit, il faut que tu le prouves. Il faut que je prouve quoi? On sait pas. Il faut que tu prouves quoi? Là, on est un peu interloqué, là. Je prouve quoi? Hein? Quoi? Des faits? De quoi? J'ai pas la. Il manque une ref là. Que tu es Jean-Paul Rouve? Ah, j'ai pas la ref. C'est une musique? Prouve-le! C'est un truc de jeune là, prouve-le! Musique? Je tape quoi? Prouve-le? Non, j'ai rien. Quelle musique? Bah, donne-moi la ref, je l'ai pas. Prouve que tu existes. Cette vieille chanson-là. C'est une émission sur Gulli. Attends, vous êtes d'accord sur rien. Hein. Merci HGAR86. Merci Mandou76. Merci à tous les deux. Je comprends rien non plus. La vache, je suis vieux, je comprends rien non plus. Polo Labolette. Ou alors ils sont complètement cons. Hein. On sait pas. Hein. C'est ou nous qui sommes vieux, ou eux qui sont totalement débiles. On sait pas ça. Hein. On sait pas. T'inquiète pas, Sugar Frog, hein, c'est peut-être pas nous. Hein. Le problème, c'est pas forcément celui qui ne comprend pas le problème. Hein. Parfois, c'est l'émetteur du message. Les mecs sont totalement. Hein. C'est ce que je veux dire. Bon, ah, par contre, on se concentre là parce que ça, on va partir sur du compliqué là. Est-ce que vous êtes prêts pour le début de la revue de presse, bande de beaux gosses? Merci d'être aussi nombreux d'ailleurs. C'est une rêve du drama avec Villebrequin, mettez-vous d'accord. Hein. J'ai 15 histoires différentes là. Ouais. Vous êtes prêts? Let's go. Ok. Ah, bah, j'avais commencé avec des tuches. Remarque, ça nous ferait du bien. Mmh. Tu bois quoi? Vodka le matin. Non, whisky. Chaud. Pour faire croire que c'est du thé. Malin. Parlons de poétique. Au début, ça ne me hypait pas. En fait, l'histoire elle est assez drôle. Alors, le Parisien nous dit d'abord qu'en ce moment, voilà, c'est la dernière ligne droite avant le discours de politique générale de François Bayrou, le nouveau Premier ministre demain, qui va donner un petit peu le cap de son action politique. Entre la gauche et le gouvernement, les négociations ont la dernière chance. Je n'ai pas trop suivi l'actu ces derniers jours. J'apprends qu'il y a des négos entre la gauche et le gouvernement. Ok. Notamment sur la réforme des retraites. Lisons. Alors, est-ce que, très bonne question, est-ce que le centriste Bayrou va devoir choisir entre la gauche et la droite? Alors que le président du Sénat, Gérard Larcher, refuse toute suspension de la réforme des retraites, bon, c'est un homme de droite, Gérard Larcher, les responsables socialistes, écologistes et communistes, avec qui le gouvernement négocie un accord de non-censure, accord de non-censure. Ce n'est pas un accord de gouvernement, c'est un accord pour dire « Ok, on ne veut pas gouverner avec vous, salut Brocoline, mais on va vous laisser gouverner, on ne va pas vous censurer, on ne va pas voter la motion de censure, voilà, si on se met d'accord sur des trucs. » C'est ça le truc. Et donc, la gauche parle de ça. À ce stade, le compte n'y est pas, dit Olivier Faure, premier secrétaire du PS, ok, puisqu'il attend les arbitrages du Premier ministre. Il attend donc que Bayrou, demain, lors du fameux discours de politique générale, prononce un mot, le mot suspension. Voilà. En l'état, effectivement, si ça ne parle pas de suspension, on va censurer. Mais on ne veut pas censurer. Retenez-moi, je fais un malheur. Suspension. Voilà. J'ai articulé parce que je sais que certains ont un peu de mal. Alors, donc c'est un peu retenez-moi ou je fais un malheur. L'ancien président François Hollande, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit ça. Il dit pareil. OK. Il y a un échange entre les deux hommes, Olivier Faure et François Bayrou, qui est prévu. Mais pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Moi, je vous lis très vite en diagonale, je vous dis l'essentiel. Voilà, c'est une négociation relativement secrète. OK, blablabla, blablabla. Voilà. OK. C'est pas grave, ça va revenir. Il faut que je bouge mon texte. Ne vous inquiétez pas. Hop, il est de retour. Voilà. Donc, on saura demain. De quel côté tombera la pièce? Est-ce qu'il va y avoir une suspension de la réforme des retraites? Vous savez, la réforme de retraite qu'avait décidé le président Macron, qui était passé avec 49-3 pour faire les économies, pour dire que c'était parce que c'était plus possible, nous disait-on. Quoi. Merci beaucoup Christophe, tu régales. Merci beaucoup pour le 10e mois. Alors, de quel côté va tomber la pièce? C'est la question que pose le Parisien. Alors, il n'y a pas que le... Quelqu'un me disait, mais il n'y a pas que le soutien du PS, ça ne suffit pas. Hein, pour qu'il n'y ait pas de motion de censure. Et le reste de la gauche, très bonne remarque, réponse, les partenaires du nouveau Front Populaire maintiennent également la pression sur le gouvernement, il n'y a pas que le PS. Hein. Marine Tondelier, c'est la patronne des écologistes, réclame également une réunion avec le Premier ministre. Et pas que la suspension de la réforme des retraites, aussi des dépenses supplémentaires pour l'environnement. Tu m'étonnes, c'est normal, c'est écologiste. Ah, par contre, les insoumis ne sont pas d'accord. Et alors, on a les socialistes et les écologistes qui demandent en gros des gages de bonne volonté, des efforts de l'actuel gouvernement pour aller dans leur sens. Et les insoumis, non. Les insoumis pilonnent leurs alliés du NFP. Voilà. Eux, ils disent on va déposer une motion de censure. Voilà. Là, ils sont pas du tout sur peser sur le gouvernement, ils veulent le virer. Quoi. D'accord. Donc il y a des petites tensions au sein du NFP, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Oh là là. C'est, je trouve ça assez fascinant. Bon, c'est de la politique politicienne. Hein. On peut en parler tous les jours, mais... Le mardi à 15h, François Bayrou, oh, je suis sûr que l'ami Jean Massier vous fera un stream là-dessus, je pense, montrera la tribune de l'Assemblée. Jean, demain à 15h, je suis sûr qu'il sera là-dessus. Montrera la tribune de l'Assemblée pour sa fameuse déclaration de politique générale. D'ici là, il souhaite continuer à tester des hypothèses et entendre ce que les différents camps, différents partis, sont prêts à accepter. Ce dimanche, il a dû prêter une oreille attentive à l'interview sur France Info de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, qui se dit favorable à arrêter la réforme pour rediscuter. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, lui, il dit il ne faut pas y toucher. Hein. Olivier Faure, sur BFM, lui, attend le mot suspension. Voilà. Sauf que dans le camp présidentiel, qu'on prenait du côté de Macron et de ses soutiens, et du côté de la droite LR, ils veulent pas de suspension. Mais c'est un peu plus subtil. Il faut qu'on arrive à... Macron ne veut pas de suspension immédiate. C'est quand même lui qui a voulu la réforme. Alors il faut qu'on arrive à suspendre sans suspendre. Il faut qu'on arrive à suspendre sans suspendre. Ok. Alors, c'est ce que dit un conseiller de l'exécutif. Ok. Alors, une pause, un gel, une interruption. Voilà. Bon, ça va jouer sur les mots, quoi. Par exemple, le ministre de l'économie, lui, il aimerait bien une renégociation de la réforme. Alors que les socialistes veulent une suspension immédiate. Maintenant, tout de suite. Alors François Bayrou, il veut peut-être faire un truc entre les deux. Genre, il va pas dire suspension, il va proposer une conférence à Matignon avec les partenaires sociaux, avec les syndicats. Voilà. On fait une petite réunion. Bon, on verra, on en saura plus demain. Et à mon avis, je suis sûr que ce sera chez l'ami Jean Massier, passionné de politique sur Twitch. Pour ceux qui ne le savent pas, allez voir du côté de Jean demain après-midi. Interview d'Olivier Faure, premier secrétaire du PS dans Libération. Je ne suis pas sûr qu'on apprenne beaucoup de choses, mais voilà, c'est pour voir un petit peu quelle est la stratégie du PS. Où en sont les négociations? Il y a une progression notable, dit-il. Bon, là, il y a un petit espoir. Voilà. Ok, je regarde s'il y a des infos en plus, je crois pas. Ah, oh, qu'est-ce que le PS entend? Ah, un message qui a été supprimé, j'aime bien. Ah oui, c'est vrai que c'était pas très intéressant comme message. Je l'aurais épinglé celui-ci. Tu l'aurais pas supprimé, je l'aurais épinglé parce que c'était. On était sur l'analyse assez fine du paysage. La presse écrite française, quand même. Qu'est-ce que c'est que cet accord de non-censure? Libération pose la question à Olivier Faure. Est-ce que cet accord de non-censure vaut pour tout le temps où François Bayrou va rester à Matignon? Olivier Faure répond. Nous avions proposé un accord de non-censure sur l'ensemble de la législature, mais quelles sont les conditions? Qui supposait un changement total de cap, l'abandon du 49-3, l'usage du 49-3, le respect des électeurs qui ont rejeté la perspective d'un gouvernement Le Pen-Bardella en juillet, le gouvernement n'a pas souhaité y donner suite. Okay. Donc ce sera tout au long de la législature, ils vont discuter. Ça va être bien le bordel, je vous le dis, moi. Ok. Alors pourquoi ils disent pas plutôt comme le NFP, nous on va censurer, on veut virer le gouvernement, hein, parce qu'il y a des électeurs de gauche qui comprennent pas la position du PS. Merci Pauline. Peut-on être dans l'opposition sans censurer le budget? Demande Libération. Hein, Mélenchon accuse le PS de passer au soutien critique plutôt qu'à l'opposition. Et Olivier Faure répond, la logique de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas l'opposition, c'est la démission du chef de l'État. Hein, en attendant ce dénouement sur lequel personne n'a pris, cette attitude du tout au rien conduit surtout à rien. Hein, les insoumis sont obsédés depuis septembre par la seule élection qui les passionne, l'élection présidentielle. Ils ont déjà annoncé qu'ils avaient leur candidat à leur programme, ils ont déjà annoncé la collecte des parrainages pour Jean-Luc Mélenchon. Libération relance hein, en disant oui mais quand même les filles vous reprochent de vous compromettre hein. Qu'est-ce que vous répondez? C'est quel journal? C'est Libé du Kedah. Salut à toi oh mon frère, salut à toi peuple Khmer, salut à toi petit indien, salut à toi, après je sais plus, peut-être l'arménien, j'ai oublié. Eux vous reprochent de vous compromettre, que leur répondez-vous? Les Français que je rencontre ont très bien compris ce que nous tentons, ils voient que nous ne demandons rien pour nous-mêmes, nous ne voulons pas de poste, nous voulons seulement arracher des concessions pour les Français. Berruyer noir, bien sûr. Qui sans nous ne verrait pas le jour? Ok. Bon, on y voit un petit peu plus clair sur cette histoire à la fois de pause, de suspension de la réforme des retraites et de pacte de non-agression, quoi. L'accord de non-censure. Ça quote les Berruyer de bon matin, quel live légendaire. Merci Polydor. punk iranien peut-être, Grossignol, ouais. Il y a ça aussi, ouais. Alors, bon, Olibé, qui est un journal qui a dénoncé avec force la réforme des retraites, trouve ça plutôt cool. Merci beaucoup, Bob Redhan, tu régales. Et Le Figaro, qui est un journal plutôt de droite, plutôt conservateur, qui trouve que bah, si la réforme des retraites, il faut la faire, même si elle est désagréable, parce qu'en fait, il n'y a plus de sous, bah, Le Figaro, ils ne sont pas contents. Hein. Retraite censure, Bayrou tentait de jouer la gauche. Le Figaro est un journal qui préfère regarder vers la droite, si vous voulez. Donc, ce n'est pas un jugement très positif. Et on a même un édito dont le titre déjà est très éclairant, La France faible. On sent que Vincent Trémollet de Villers va tirer à boulet rouge sur tout ça. Ça commence très fort. Nous sommes donc aux doléances de Marine Tondelier et d'Olivier Faure, la décroissance appuyée au bras de l'archaïsme. Petit four, impôts, suspension de la réforme de retraite. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, ne ménage pas sa peine pour les séduire. Apparemment, il confond négociations et concessions. Le tableau a quelque chose d'irréel. Un pays ruiné. Bon, ça, c'est un truc que Le Figaro dit souvent. Surendetté. Sans budget. Avec un président et un premier ministre qui ne satisfont qu'un Français sur cinq, ce qui est vrai. Une société plus à droite que jamais. Ça, c'est Le Figaro dit souvent que la société française est à droite. Pourtant, la droite a des résultats catastrophiques aux élections. Voilà. Mais je pense que Le Figaro fait une petite addition. Enfin, ce journaliste du Figaro-là. Comment Le Figaro peut-il dire, ce journaliste, que la France est plus à droite que jamais quand on voit le résultat des élections pour la droite qui sont catastrophiques? Parce que je pense que Le Figaro additionne les voix macronistes, les voix de la droite traditionnelle très faible et les voix du RN. Voilà. Ce que moi j'appelle l'extrême droite, mais là, quelque part, que Le Figaro appelle la droite. En tout cas, ce journaliste du Figaro. Est-ce que Twitch autorise de donner son avis personnel et politique ou pas? Oui, mon ami. Ouais. T'as pas mal de liberté sur Twitch au final. Donc, un pays ruiné, surendetté, sans budget, une société plus à droite que jamais et une politique gouvernementale qui, entre socialistes et écologistes, ouvre comme seul horizon la suspension d'une réforme vitale pour notre économie. Vous avez compris que pour Le Figaro, il ne faut pas suspendre la réforme des retraites. Pour ajouter au désastre, au pays médaille d'or du prélèvement obligatoire, nos têtes d'œufs. Eh ben dis donc, le gouvernement, hein, c'est des têtes d'œufs. Pas très gentil. C'est un peu comme le tête de neuil. Non, qu'est-ce qu'il disait le jeune homme tout à l'heure? Tête de neuil. C'est un peu pareil. Voilà. Tête d'œuf. Nos têtes d'œufs continuent d'imaginer comment taxer un peu plus ceux qui subissent déjà la charge écrasante de l'impôt. Le Figaro, il n'aime pas trop les impôts. Le riche va payer le riche. Entre guillemets pour Le Figaro, une fois encore, au nom de la justice fiscale, rien n'est moins équitable, pourtant que cette justice fiscale, forme démagogique et technocratique du racket d'État. Mais il faut décrocher le PS et les Verts du NFP, rétorquent nos demi-habiles, blablabla, blablabla. Bon, le Figaro n'est pas très content. Le Figaro n'est pas très content. Salut, Crocodile. Ouais. Un petit peu de whisky. Tous les médias sont de droite, donc bon. Merci sur 33. C'est bien. On sort de la lecture de Libération, grand journal de droite. On va dire L'Humanité tout à l'heure, grand journal de droite. Tu régales. Tu régales. Tiens, je vais épingler ce message parce que là, on est quand même sur une masterclass. Tous les médias sont de droite, donc bon. Ça, c'est épinglé, ça. Quand il y a vraiment de la valeur ajoutée, ça s'épingle. On est un peu sur une forme de masterclass. Merci Animac22. Merci Pauline. Le fameux journal de droite Libération. Fameux journal de droite L'Humanité. Mediapart, le grand média libéral Mediapart. Hein, ainsi de suite. Alors, tout à l'heure, je me suis un peu étonné quand même de ce mot très fort. Le risque d'un Munich sur les retraites. Munich, c'est quand même le recul des pays européens face à Hitler en 1938. C'est pas un journal, Mediapart ? Cyril, bordel. Un journal, ça va pas besoin d'être... Il faut... Cyril, bon, je sais que t'as 95 ans, mais il faut évoluer. Un journal, c'est pas forcément du papier. Le journal que je suis en train de lire, il est en PDF. Hein. Donc, Mediapart est un média, un journal sur Internet, mais c'est un journal. De bonne qualité, d'ailleurs. C'est pas obligé de... Hein. Alors peut-être que dans l'EHPAD, mon Cyrilou que j'aime beaucoup, le Monde que tu reçois en version papier, très bon abonnement d'ailleurs, Effectivement, ça te fait penser que le journal, c'est en papier, mais pas forcément. Cyril, non, mais vraiment, Papy Sam qui me troll sur mon âge. Oui, Cyril. Parce que tu le caches à la communauté, Cyril. Tu es un habitué. Mais je sais, moi, que tu as 95 ans. Je sais que tu ne regardes depuis ton EHPAD des fleurs bleues, hein, du côté de Cannes. Voilà, parce que bon, tu as une bonne retraite, tu as bien travaillé, donc tu as une bonne place. Hein. Je sais que c'est ton petit moment de bonheur. Voilà. En plus, tu es levé depuis 4 heures du matin parce qu'à cet âge-là, ça ne dort plus. Et que tu attends la revue de presse avec impatience. Voilà. Et que tu n'es pas trop sur le gaming le soir parce que le dîner à l'EHPAD, c'est à 17h. Je sais ça. Je sais tout ça. Je sais, Cyril, je sais tout ça, moi. Je sais tout, moi. Donc, donc un journal, c'est pas forcément en format papier. Donc, les risques d'un Munich sur les retraites, c'est quand même très fort. C'est Guillaume Tabar qui écrit ça. Lisons cet article, je pense qu'on va... Ça va être pas mal, ça. Je zoome. Notamment pour Cyril, qui voit plus très clair. La cause semble, hélas entendu, le gouvernement s'apprête à capituler. Nom de Dieu. Face à la gauche sur la réforme des retraites. Voilà. Les discussions ne sont pas achevées, mais Olivier Faure et Marine Tondelier sont chargés de rappeler ce dimanche le prix de leur non-censure. Et tout à son obsession de ne pas subir le même sort que Michel Barnier, François Bayrou s'apprête, sauf sur son dernière minute, à leur céder. Bayrou va céder à la gauche. S'alarme Le Figaro. Actarus nous dit bonjour depuis la Suisse. Magnifique pseudo. Bon, j'ai le droit de... Hein, de temps en temps... Je taille un petit costard à certains abonnés aussi. Ça nous fait, c'est pour rigoler. Ils savent très bien que c'est de l'humour. Certes, l'occupant de Matignon, le ministre de l'économie et les ministres concernés jugeront refuser une alternative qui creuserait plus les déficits. Ils vont user de créativité sémantique pour prétendre qu'il n'y a ni abrogation ni suspension de la réforme, mais qui sera dupe. On va prendre un peu de sirop contre la toux. On n'est pas malade, mais on tousse. Bayrou est prêt à tout pour garder sa place, dit King Julian. C'est un sirop, c'est un peu un sirop naturel, là. Dégueulasse. Très efficace. C'est pas bon, c'est Berk. C'est dégueulasse. Encore un petit coup. Grintus. C'est dégueu. Ah, c'est dégueu. T'as l'impression que c'est une espèce de goudron sucré. Merci aux voyageurs. Merci Animag. Ah, mais bon, ça est très efficace. Donc, alors le problème, c'est que le Figaro estime que c'est une catastrophe, la suspension de la réforme des retraites. Toute pause se paiera en milliards supplémentaires. Alors même que l'objectif est de permettre le vote d'un budget censé réduire les déficits, un tel renoncement, surtout s'il concernerait les 64 ans, hein, serait historique. Toutes les réformes des retraites se sont faites dans la douleur et l'impopularité, ce qui n'est pas faux. Voilà. Mais jamais aucun gouvernement n'est revenu sur celle de ses prédécesseurs. C'est pour ça que le Figaro dit que ce serait historique. En cédant aux socialistes, aux communistes et aux écologistes, François Bayrou commettrait une erreur tactique autant qu'une faute historique. Il n'y a pas un gobelet doseur ? Si, il y en a un. Mais moi, c'est au feeling. Le sirop, c'est au feeling. Merde. Voilà. Le sirop, moi, c'est au feeling. Voilà. Surtout l'hiver. Pourquoi surtout l'hiver ? Parce que au feeling winter. Faut être vieux pour avoir la ref. Feeling winter. Faut être vieux. Les jeunes, vous pouvez pas comprendre. Nul doute que le bloc macroniste se réjouirait d'avoir arraché la gauche aurait les filles des griffes des mélenchonistes, mais de la NUPES au NFP, l'expérience prouve que lorsque les intérêts électoraux sont en jeu, la mystique de l'union de la gauche finit toujours par l'emporter. Voilà. On s'apprête à tresser des lauriers à une gauche qui, s'affranchissant de la tutelle insoumise, retrouverait le sens des responsabilités. Curieux sens des responsabilités que de pousser une décision qui reportera une nouvelle fois le financement des retraites sur les générations futures ou sur des prélèvements alourdis. Voilà. Éloignerait la France de ses partenaires européens, désespérerait les marchés financiers et en ferait supporter des conséquences à notre économie. Le Figaro dit ne faites pas de pause sur cette réforme des retraites, ça va être une catastrophe sur un plan économique. Hein ? Merci Sissim, merci Réganima, merci les Gouttes, merci The Voyageur. L'exécutif s'apprête donc à céder à une gauche qui ne voudrait rien céder. Bayrou se réjouira d'échapper à la censure, parce qu'il aimerait bien rester un peu au pouvoir, le François Bayrou, ça fait longtemps qu'il attend ça. Mais les finances publiques seront durablement sacrifiées sur l'autel d'un soulagement immédiat. En son temps, Philippe Séguin avait qualifié de Munich social une politique budgétaire se faisant selon lui sur le dos de l'emploi. Il a redouté aujourd'hui l'imminence d'un Munich sur les retraites. Voilà. Donc le Figaro est un peu inquiet. Et il n'est pas le seul, puisque Les Échos, journal libéral proche des entreprises, qui aimerait bien que la dépense publique soit moins forte, voilà, et un petit peu inquiet aussi. Merci Jacek pour le 13e mois d'abonnement. Regardez. Retraite, fiscalité, Bayrou et le PS prêts à prendre l'économie en otage. Ce sont des mots assez forts. J'étais un peu surpris de ce titre des Échos, qui est un journal qui est bon, certes libéral, mais qui est assez prudent quand même de sa analyse des politiques publiques. Et là, pas du tout. Et on dit les termes, quoi. Et on va jusqu'à dire, en bas à gauche, édito, que c'est 1981 le retour. C'est comme l'arrivée de la gauche au pouvoir pour la première fois sous la 5e, c'est l'élection de François Mitterrand. Les mots sont durs. Hop, je vais lire cet édito, je vais essayer de zoomer un petit peu là. Voilà, pour tous les gens qui nous regardent en EHPAD. Et vous êtes nombreux, je le sais. Les occupations ne sont pas si nombreuses hein, en maison de retraite. Je sais que pour certains, c'est un petit peu le plaisir du matin. Et je vous salue d'ailleurs, je vous souhaite une très très bonne journée. Notamment Cyril, notre ami Cyril qui est avec nous ce matin. Oui, Cyril, le seul mot qu'il arrive à lire, Cyril, c'est pour rire, hein. Le seul mot qu'il arrive à lire dans la page, là, c'est Les Échos en bas, en haut, là. Et encore quand je zoome. Attends, je zoome. Cyril, je zoome pour toi, là. T'arrives à lire Les Échos, là ? On est con, hein. 1981, le retour, c'est parti. Cyril, joli parce que c'est écrit petit pour toi. Au secours, la gauche revient. Travailler moins en mettant en pause la réforme des retraites, taxer plus. Voilà à quoi pourrait ressembler l'accord entre le gouvernement Bayrou et le Parti Socialiste pour obtenir un pacte de non-censure. Alors que l'économie française est en panne depuis la dissolution de juin dernier, nous voilà replongés à 36 heures du discours de politique générale de François Bayrou dans une ambiance digne de la négociation du programme commun. On est en 1981. Comment combler les déficits ? En prenant l'argent où il est, répond une classe politique de plus en plus déliquescente. Dans les résultats des grandes entreprises françaises, dans le monde de la finance, dans la poche des plus hauts revenus, dans les coffres forts des holdings familiaux, voilà, et dans le dispositif Dutreil, qui permettait de des enfants de reprendre l'entreprise familiale en payant moins de droits de succession. C'est le dispositif Dutreil. Autant de propositions de court terme, faute de volonté politique de baisser la dépense publique, dont on sait qu'elles conduiront très vite à un nouveau déclassement de notre économie et de notre pays, à un tournant de la rigueur qui fera passer celui de 1983 pour une partie de plaisir. C'est intéressant de voir que vous avez vraiment deux camps, en gros, dans la presse française ce matin. Il y a la presse française qui dit « Les Français étaient contre cette réforme des retraites. S'il y a une chance d'annuler, de suspendre cette réforme des retraites, il faut le faire. » Et vous avez une autre presse qui dit ce matin « Pas du tout, il ne faut absolument pas annuler cette réforme des retraites ou la suspendre parce que en fait, ça va être une catastrophe pour les finances publiques. On a besoin de cette réforme pour faire les économies. » Et Les Échos de dénoncer toutes les mesures qui pourraient, conditionnelles, c'est pas sûr, être mises en place par François Bayrou pour aller trouver de l'argent. Hein. Parce qu'évidemment, si tu perds les économies de la réforme des retraites, il faut y trouver de l'argent. Donc les formules, ça pourrait être... Donc taxer les grandes entreprises françaises avec une surtaxe d'impôt sur les sociétés, les grandes sociétés françaises, relever la flat tax de 30% à 35% hein, pour taxer les placements financiers, toucher les plus hauts revenus pour faire passer avec un revenu minimal, un taux d'imposition minimal effectif, parce que vous savez que certains très très riches arrivent un peu à contourner l'impôt, donc avec un espèce de revenu minimal. Un impôt sur le revenu minimal effectif qui ferait passer le prélèvement sur les contribuables en moyenne de 30 à 42%. Donc là, on est sur les très gros revenus. Voilà. Honte après les holdings familiaux en ressuscitant l'impôt sur la fortune et la taxation sur la fortune immobilière. Et puis, il y a le dispositif du trait dont je vous ai parlé. Voilà. Bon, ça, Les Échos ne sont pas d'accord. 70% des Français sont favorables à une nouvelle taxe du patrimoine des riches d'après un sondage paru aujourd'hui. Nous dit Cyril, tu as raison. Mais ce que nous disent Les Échos ce matin, c'est que les Français ont tort, quoi. Merci Isara Kiri, comment vas-tu ? 41 mois d'abonnement. Un de mes engagements de cette année 2025, c'est faire plus de revues de presse que l'an dernier. Je vous lis. Salut Ludo. Attendez, je suis allé trop loin là. Après, je vais vous lire un papier dans Les Échos qui est passionnant sur la dette. Il y a Grossignol qui dit, il est très riche quand il vole, ils appellent ça l'optimisation. Il y a Dick Gladir qui dit, moi j'ai déménagé en Suisse il y a un an, la retraite est à 65 ans là-bas, personne ne se plaint. Pourquoi? Différence de mentalité, tu penses? Ah bah le français n'aime pas se laisser faire, oui. Est-ce qu'on va le blâmer? Donc cette année, c'est plus de revues de presse, c'est plus de cyberpunk, ça la mèche exactement. Est-ce que ton format table ronde du vendredi reviendra un jour? Night Fisher, tape pour l'exclamation hebdo, H-E-B-D-O, dans le chat, et tu auras cette info qu'on me pose souvent. Tu auras cette réponse. Il y aura plus de Valo aussi, Arsvolt. Il y aura plus de Valo, il y aura plus de GTA, il y aura plus de cyberpunk, il y aura plus de revues de presse. Il y aura plus de voilà, il y aura juste moins de sommeil. Il y aura plus de Samuel, exactement. Et plus d'amour, tout à fait, Pimnet. Une table ronde par trimestre, ça se fait, non? Non, Sofiane, trop de travail cette émission. Trop de travail de préparation, trop de travail de programmation. C'était vraiment énormément de boulot. Qu'est-ce que je voulais dire? Zut. Et puis, trop l'occasion pour les mauvais esprits, les esprits chagrins. Puisqu'on parlait d'actualité avec des invités dont, évidemment, je ne maîtrisais pas la parole, ils disent ce qu'ils veulent, de créer des polémiques après, sur les réseaux sociaux. Pour vous dire les termes, ça m'a cassé les couilles. Donc, voilà. Bon, maintenant, là, dans ma revue de presse, je maîtrise le propos. Je veux dire un truc, je le dis. Si on vient me reprocher un truc, c'est parce que je l'aurais dit. Et voilà. Je pense que Twitch n'est pas prêt pour des émissions de débat d'actualité comme ça. Il y a trop de gens mal intentionnés. Peut-être que ce moment viendra un jour, mais il y avait trop de taf. Et puis j'ai découvert Valorant. J'ai découvert Valorant surtout. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est la revue de presse. Peut-être que ça reviendra un jour, quoi. Mais laissez-moi jouer aux jeux vidéo. Moi, je me régale. Je vis ma meilleure vie, quoi. Alors, maintenant, on va se poser la question de savoir si la France, et c'est une question vraiment essentielle, je redeviens sérieux. Si la France est au bord de la crise, si en fait on est vraiment dans une situation catastrophique comme on l'entend parfois dans le chat et ailleurs, voilà. Et on a par exemple un monsieur qui dit, qui est le rapporteur général du budget au Sénat, qui dit, donc un sénateur je suppose, qui dit la France n'est pas à l'abri d'une crise financière. Et après on ira dans Le Monde voir deux économistes qui ne sont pas d'accord. Merci Sainte Savonnette, merci Soufiane, merci Sainte Savonnette, c'est joli comme pseudo, Sainte Savonnette. Et donc, il y a deux économistes qui ne sont pas d'accord. Il y a un économiste qui dit, en fait, la dette, c'est une catastrophe pour la France. Et un autre qui dit, c'est pas si grave, en fait, vous exagérez. Et moi, je voudrais bien comprendre ça, parce que je constate que la dette française, elle explose. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Eh bien, j'ai deux économistes qui s'opposent dans Le Monde. Et je trouve ça extrêmement intéressant. On va avoir des arguments un petit peu de fond qui vont un peu nourrir notre réflexion sur ce sujet. Laissez-moi d'abord monter le chauffage parce que pour le coup j'ai un peu froid ce matin et je vous lis d'abord cet article sur la France qui n'est pas à l'abri d'une crise financière, donc plutôt quelqu'un qui est inquiet. J'arrive. On va servir un whisky aussi. Voilà, c'est déjà moi. Voilà. Il est tellement froid que je me suis dit que j'allais streamer avec un bonnet ce matin, mais je l'ai oublié. J'ai un bonnet ici ? J'ai une casquette, mais la casquette c'est pour le gaming. Ah si, j'ai un bonnet ici. Donc, parlons du budget.
Parlons du...
Cette crise financière. Non, ça c'est... Je vais pas mettre ce bonnet, c'est mon bonnet de catch. La nuit, quand je m'ennuie et que j'ai envie de me défouler un petit peu, je sors dans la rue, je mets ce bonnet et je fais du catch. Avec les passants, les gens qui passent. Je les prends, paf, paf, paf. Voilà. Et donc, je vais le mettre en mode discret. C'est quoi ce bonnet ? Bah, c'est mon bonnet de catch. C'est mon bonnet de catch. Donc là, je me mets en mode discret. Alors, c'est quoi cette histoire de crise ? Lisons. La France n'est pas à l'abri d'une crise financière. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Quelle heure il est ? J'ai le temps ou pas ? J'ai le temps, il est 10h46. Qui m'a appelé de bon matin, là ? Il y a 2 minutes. J'ai encore oublié un rendez-vous, moi ? Je suis très distrait. Oui. Non, c'est bon. C'est mon bonnet pour les soirées particulières ? Non, c'est mon bonnet de catcheur. Quand je vous dis que je m'entraîne pour le MMA, personne ne veut me croire. Donc la France ne serait pas à l'abri d'une crise financière. Tiens, il y a Hardcat qui dit « J'ai déjà pris un high kick puissant de Sam en pleine nuit. » Ben oui, pour me défouler. Reviens, petit article. Oh, il est parti. Petit article, reviens. Je vous demande de revenir. Il est parti. On est connecté, reconnecté. J'aimerais avoir Samuel Odetter. Je suis un fou, moi. Je suis un malade, moi. Allez, reviens, petit article. Il est parti, petit article. Hop. Hop. Bah, pourquoi il est parti ? Petit article parti trop tôt. Toujours les meilleurs qui partent en premier. Ne vous inquiétez pas, on va le faire revenir. Oh, c'est depuis que j'ai mis le bonnet. Il n'a pas aimé. À mon avis, on a été censuré là. Ah, ça y est, je pense que c'est bon. Attends. C'est le bonnet, c'est depuis que j'ai plus le bonnet, ça capte plus. Bah alors. Désactiver. Activer. Ouais, tiens, j'ai voulu faire l'économie, mais je crois qu'il faut que j'achète un nouveau boîtier, le gâteau, il marche plus là. Putain, j'ai pensé que. Ouais, je pense qu'il a vécu sa meilleure vie. Merde, la vie nous a lâché, je crois là. Non, c'est pas la tablette, c'est le boîtier, le gâteau. Merde. Ouais, ça fait des années qu'il stream. Hein. Ouais. Ouais, les boîtiers d'acquisition, c'est un peu faiblard, ouais. Ça va. Ah zut. Ah, je crois qu'il nous a lâché là. Zut. Ah merde. Il acquiert plus rien du tout. Ah oui, c'est sûr. Oui. Bah, c'est pas grave, je vais aller chercher l'article sur internet. C'est pas trop un problème ça. Hein, on va laisser se reposer peut-être. Bah, c'est ma faute. Hein. Ça fait longtemps que je vais en acheter un autre. Dans le doute, une gagnotte. Non. Non, c'est de ma faute, j'aurais dû le changer. Ouais, je vais le commander, je peux peut-être avoir. Demain. Merci beaucoup, Deshke. Bisous à ta mamie. Vous savez quoi ? On va aller chercher sur Internet. De toute façon, je suis abonné à tous ces journaux, donc il n'y a aucun problème. Hop, c'est parti. La France. L'abri d'une crise financière. Les Échos. C'est plus que j'ai mis le bonnet quand même. Hein. Voilà, je l'ai là. Tadam ! Comme je suis abonné, alors, déjà abonné, connectez-vous, je l'ai, j'ai trouvé l'article, Samuel Etienne, hop, le mot de passe, donc BG du 75 TTBM. Voilà. Parfois je parle à voix haute, j'espère que je n'ai pas dit mon mot de passe. Voilà. Bah oui, 75, bah oui, de Paris, quoi. C'est bon, je l'ai. Ha ha ! Voilà. Alors, lui, ce monsieur, qui est un sénateur LR, donc de droite, il met en garde contre la dégradation financière dans laquelle emprunte la France. Voilà, j'ai trouvé l'article. Voilà. Vous semblez inquiet. Regardez, c'est là. La France est dans un état d'extrême urgence budgétaire. Nous ne sommes pas tant au pied de l'Himalaya qu'au bord d'un précipice, vous voyez. Voyez comment l'état de l'écart de taux avec l'Allemagne s'amplifie, c'est ce qu'on appelle le spread, hein, c'est la différence entre les taux d'emprunt de l'Allemagne et de la France. Tout peut aller très vite, la France n'est pas à l'abri d'une crise financière si les conditions d'emprunt se dégradent encore, il faut dire la vérité et trouver des voies de rebond. Donc là, ce monsieur fait partie des gens qui disent que vraiment la situation est grave. Voilà. Hop. Est-ce que l'iPad est revenu ? Non. Il est vraiment, il est mort, quoi. Hop. Mais après, c'est le détail de ce qu'il faudrait faire, quoi. Ok, très bien. Bon, on va tous mourir, voilà. Donc ça, c'est pour ce monsieur. Et alors, moi, ce que je voulais vous montrer... Après, c'était ce débat dans Le Monde qui est passionnant, mais c'est pas grave, je suis abonné, donc je devrais pouvoir le trouver aussi, entre deux économistes. Je vais vous le trouver tout de suite. Donc, la dette publique est-elle vraiment alarmante ? Le Monde. La dette publique est-elle vraiment alarmante ? Le Monde. Alors ça, et avec les deux économistes qui s'opposent, ça vraiment passionnant. Oh, je l'ai, je suis un goat. Et hop, c'est bon, il est déjà... C'est un article qui est réservé aux abonnés, hein, c'est normal, la presse de qualité se paye, mais comme je suis abonné au Monde et à tous ces journaux, je l'ai. La dette publique est-elle vraiment alarmante ? L'avis contrasté de deux experts, François Eckhall et François Gérolf. Quelqu'un me demande, mais c'est qui les économistes ? Ben, c'est écrit en gros, mais après, je sais que certains sont un peu âgés ici, donc c'est compliqué. Hein, je peux zoomer un petit peu, mais... Et donc, c'est très intéressant de voir deux économistes qui ne sont pas d'accord là-dessus, quoi. Le récent dérapage des comptes publics a remis la dette publique au cœur du débat, on en parle beaucoup. A-t-on raison de craindre une perte de contrôle ? L'ancien magistrat à la Cour des comptes, François Eckhall, et l'économiste François Gérolf confrontent leur vue sur le sujet. Je trouve ça extrêmement intéressant. Depuis le 1er janvier, la France est sans budget, vous le savez. Hein. L'État ne fonctionne que grâce à une loi spéciale qui a prolongé la loi de finances 2024. Alors que le Premier ministre se dit au pied de l'Himalaya budgétaire et s'apprête à prononcer demain, c'est ça l'actualité. Sa déclaration de politique générale devant le Parlement, Le Monde a fait débat dans ses locaux deux spécialistes des finances publiques. François Eckhall, donc, ancien magistrat à la Cour des comptes, juge nécessaire de stabiliser la dette publique, hein, ce qui rend inévitable une réduction des dépenses sociales. Et François Gérolf, qui est polytechnicien, qui est économiste et professeur associé à Sciences Po, au contraire, juge contre-productif de dramatiser la menace que représente cette dette qu'on nous présente comme énorme. Je trouve ça assez intéressant. Faut-il s'appeler François pour être expert en économie du Chestnut Cream ? C'est vrai. Deux François, là. Voilà. François Eckhall, François Gérolf. Ou Gérolf. Voilà. François Damiens, hein, comme le dit l'ONISC, n'est pas économiste. Claude François n'était pas économiste. François Ier était roi. Hein. François Hollande. Le pape François. Ouais. François Fellman. Ouais. Il y a vraiment des vieux dans le chat, par contre. François Fillon rend l'argent, comme dit Tsuka. Voilà. Alors, peut-être que François est une condition nécessaire pour l'économiste, mais pas suffisante, comme vous l'avez vu. Claude François, qui n'était pas électricien non plus, Irondil, tout à fait, j'ai la ref. Donc, l'ampleur de la dette publique est devenue récemment, si on croit les sondages, un sujet de préoccupation majeure des Français. Est-ce que c'est un problème aussi grave qu'on le dit ? Pour le coup, je suis très content de trouver ce débat parce que moi, ça fait longtemps que je l'attends. François Eckhall dit, alors oui, à court terme, la dette publique n'est pas un sujet d'inquiétude à court terme. Mais à long terme, elle risque de nous placer dans une situation difficile. Il est donc légitime de s'inquiéter sur sa hausse, car si elle est incontrôlée, cette dette, le risque est de voir un jour les créanciers de l'État, pour ceux qui nous prêtent de l'argent, notamment à l'étranger, prendre peur et exiger des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Alors, nous, on a une certaine dette en France, assez importante. On nous prête à un certain taux, mais si demain, les gens qui nous prêtent ont moins confiance, ils vont demander des taux d'intérêt plus gros. Et là, la dette ne va cesser d'enfler puisque la charge de la dette va augmenter. Demain, si vous empruntez à 3% pour un appart et que vous prenez un taux variable et que quelques années plus tard, le taux il monte à 5% ou 6%, bah, vous comprendrez bien là, qu'il y a une petite différence, quoi. Ouais. Il est donc légitime de s'inquiéter de sa hausse, car si elle est incontrôlée, le risque est de voir un jour les créanciers de l'État prendre peur et exiger des taux d'intérêt encore plus élevés. On peut même imaginer un effet boule de neige au terme duquel les créanciers arrêteraient de prêter l'argent. Ça, c'est la grande inquiétude. Hein. Imagine même, on refuse de nous prêter de l'argent. Or, la France, elle vit un peu à crédit. Voilà. Et ce serait une catastrophe. Alors, certes, reconnaît François Eckhall, il est très rare. L'État peut annuler ses dettes et dissoudre ses créanciers. Grande pas. L'État peut annuler ses dettes et dissoudre ses créanciers. Tu as bien conscience que l'essentiel de la dette française, elle est aux mains d'investisseurs, d'épargnants et d'investisseurs étrangers. Donc tu penses que l'État français va annuler des dettes détenues par les étrangers qui vont se laisser faire. Qui vont se laisser faire. Hein. L'argent vient notamment des fonds de pension américains, donc avec les retraités américains qui ont investi leurs économies, par exemple, ils le savent pas forcément, mais ils ont de la dette française. Évidemment que Trump va laisser sans problème François Bayrou ou Emmanuel Macron annuler cette dette. Bien sûr ! Bien sûr ! Aucun problème ! Bien sûr, non, je pense que c'est un peu compliqué. Lisons quand même, je ne suis pas économiste, mais voici deux personnes qui sont économistes. Je pense qu'il faut plutôt lire ces gens-là, plutôt que, lire le chat sur ce sujet, ou encore écouter Samuel Chen. Je pense qu'ils sont quand même plus forts. Donc, François Eckhall reconnaît qu'il est quand même très très rare qu'un pays se retrouve dans ce genre de situation, car les organismes internationaux jouent le rôle de prêteurs en dernier ressort. Quand il s'agit du FMI, ce n'est pas sans contrepartie. Si demain, des pays, l'argent ne nous est plus prêté, essentiellement par l'étranger, le FMI peut venir à notre secours. C'est déjà arrivé à certains pays. Sauf que le FMI, il ne le fait pas sans condition. Il exige quoi, le FMI ? Ça, c'est ce qui s'est passé avec la Grèce, notamment, et d'autres pays. Des politiques budgétaires très douloureuses pour redresser les comptes. Le FMI, il va bien nous prêter de l'argent en urgence, mais il va dire, par contre, les gars, il va falloir se serrer la ceinture. Et pas qu'un peu. Ça, vous le savez, ça s'est déjà fait dans d'autres pays. Quoi. En Europe, ce serait plutôt la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui pourrait jouer ce jeu. Voilà, elle peut en effet racheter des titres de dette et faire baisser les taux d'intérêt. Les marchés semblent miser sur cette hypothèse. Voilà. Les marchés ne donnent pas l'impression d'avoir très très peur de la situation, puisque l'écart de taux d'intérêt, ce qu'on appelle le spread entre la France et l'Allemagne, augmente, mais reste assez limité. Voilà. Pourquoi ils se disent, comme certains dans le chat, la France est too big to fail. C'est-à-dire que une petite banque, tu peux la laisser faire faillite. Ça va foutre la merde. Mais ça n'a pas provoqué de réaction en chaîne. Une énorme banque au niveau mondial, si elle fait faillite, le problème, c'est qu'elle a des liens capitalistiques avec plein d'autres banques, et ça peut créer une réaction en chaîne catastrophique. Un pays, c'est pareil. Est-ce qu'on peut laisser un pays comme la France faire faillite ? Les conséquences au niveau européen seraient gigantesques. Donc, too big to fail, disent certains. Voilà. Ont-ils tort ? Les gens qui disent ça demandent les échos. François Eckhall répond, avant d'intervenir, la BCE pourrait très bien exiger de la France que la dette soit mise sous contrôle. Et François Eckhall pose la question, est-ce qu'on veut vraiment que notre avenir soit entre les mains ou du FMI ou de la BCE ? Voilà. Ce n'est pas forcément une bonne idée en matière de souveraineté. Voilà. C'est pour ça, dit-il, qu'il me semble nécessaire de contrôler la dette ou au moins de parvenir à la stabiliser par rapport à un pourcentage du PIB. Voilà. Personne n'imagine plus de la ramener à 60% du PIB, comme c'était ce que réclamait le traité de Maastricht, mais la stabiliser à ce qu'elle est aujourd'hui, à peu près 113% du PIB, eh bien, ce serait peut-être OK. Voilà. Alors, ça, c'est François Eckhall. François Gérolf, lui, il n'est pas d'accord avec tout ça. Mais c'est encore des quais et encore bisous à ta mamie, j'aime trop ton message. François Gérolf, il dit, je vous rejoins sur un point. La dette n'est pas un problème à court terme. Ok, il n'y a effectivement aucun risque, malgré tous les mots qu'on a entendus ces derniers mots, faillite, la Grèce. Là où je diverge, en un seul mot, je diverge avec vous, dit François Gérolf, c'est sur le moyen terme. Je suis d'accord pour stabiliser la dette, mais la question c'est à quel niveau ? Non, diverge en un seul mot, j'ai dit. Non, D-I-V-E-R-G-E, coller. Non. Je sais ce que vous faites. Je sais ce que vous êtes en train de faire. D-I-V-R-G-E, coller. Mais à quel niveau ? Le faire coûte que coûte à son niveau actuel nécessite un effort budgétaire substantiel et douloureux. Or, selon moi, un tel effort est inutile car la dette va se stabiliser naturellement. Quoi ? Le monde dit quoi ? Alors le monde, comme il est poli, le monde dit pas quoi ? Le monde dit naturellement. Le monde est un peu interpellé par les propos de cet économiste qui dit que la dette va se stabiliser naturellement. Alors le monde dit naturellement ? Moi je dis quoi ? Hein ? Et l'économiste répond, Oui, la dette va se stabiliser naturellement. Les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire inflation, sont en train de revenir à des niveaux tels que la dette va stabiliser, même si ce sera un niveau plus élevé que celui que vous souhaitez, François Eyckel, c'est-à-dire autour de 150% du PIB. Voilà. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire que la situation est en train de se dégrader tellement qu'on va tellement finalement devoir de l'argent qu'à un moment, on va arrêter d'emprunter à n'importe quel taux et à n'importe quel niveau et qu'en gros, on va se stabiliser à 150% du PIB, ce qui est énorme. Mais il dit, est-ce gravissime ? Je ne le pense pas. Voilà. On exprime la dette en pourcentage de PIB, ce qui donne l'impression qu'elle est gigantesque. 150% du PIB, c'est beaucoup. Hein. À l'époque, on avait passé 100% du PIB c'est-à-dire 100% du PIB, du produit intérieur brut du pays sur une année, c'est énorme. Voilà. Mais lui, il dit qu'on devrait mieux parler, non pas en pourcentage du PIB, mais en année de PIB. Et il dit, par exemple, le patrimoine national, c'est-à-dire ce que les Français ont en économie, ça représente 6,6 années de PIB. Voilà. Alors que la dette, c'est un peu plus d'un an de PIB. Bon, alors grosso modo, si on pique toutes les économies des Français, eh ben on pourra s'endetter encore 6 fois plus. C'est pas ce qu'il dit, bien sûr. Mais il essaie de faire comprendre qu'il faut relativiser. D'ailleurs, les gouvernants voient bien au fil du temps que c'est sans problème particulier qu'on franchit les seuils qui pourtant étaient considérés comme impossibles avant, infranchissables, 60% du PIB, puis 90% pour 100%. Donc cet économiste il dit finalement on peut aller jusqu'à 150%, c'est pas trop un problème. C'est pas... Mix dit j'ai rien compris. En fait, cet économiste il dit c'est pas si grave. C'est pas tant que ça, dit-il. Bon, pourtant, il y a des intérêts de la dette. Comme dit Axto Brack Gamer dans le chat, salut, les intérêts de la dette, ça pique. Ben oui. Alors, François Eyckel répond à ce monsieur, quand on crie au loup et que le loup ne vient pas, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas quelque part. Il existe, le loup. On emprunte à taux négatif, Lukawaka, il a littéralement 4 ou 5 années de retard sur l'actualité. Il se rappelle d'une époque, il y a quelques années, où on empruntait à taux négatif tellement les taux étaient très faibles, et il n'a pas du tout lu les journaux depuis 4 ans. Voilà. Maintenant, on n'emprunte pas du tout à taux négatif, ça coûte une blinde à la France. Voilà. Là, tu devrais venir plus souvent. Hein. Ça fait peur en vérité. À un moment, il faut pas lire, faut arrêter de s'informer dans les salles d'attente des dentistes ou des médecins, parce que vous savez, les dentistes et les médecins, ils laissent des vieux magazines dans la salle d'attente là. Voilà, là tu chopes tous les virus des patients d'avant, c'est une très bonne idée. Et puis ça ne change pas très souvent. Donc toi, t'as dû lire un vieux Paris Match de 2018-2020 et tu viens nous filer tes statements sur l'info là. Non, faut pas. D'abord parce que tu vas tomber malade à lire ces magazines, hein, dans les salles d'attente des médecins, et qu'en plus, tu n'as pas regardé la date. Il faut. Donc, François Eyckel dit, c'est pas parce qu'on crie au loup et qu'on ne voit pas le loup, qu'il n'y a pas le loup, il est là, il est tapis dans un coin, on ignore juste quand il va arriver, le loup c'est la catastrophe. Hein. Pour ma part, je préfère donc consolider les murs de la cabane, là on a un petit clin d'œil aux trois petits cochons, le dessin animé, hein, pas le film, parce qu'il y a un film qui s'appelle comme ça aussi, mais c'est un autre film, ça n'a rien à voir. Pour écarter le risque. Voilà. Alors, Le Monde dit à François Gérolf, la dette publique n'est pas un problème. J'ai vu que certains ont vu le film Les Trois Petits Cochons. Ok, d'accord. Ok, très bien. Bravo. Le Monde dit à François Gérolf, la dette publique ne semble pas un problème gravissime. Alors, il est un peu surpris, Le Monde. Et il répond, elle n'est pas grave en soi, mais elle peut être le symptôme d'un autre problème. Il faut regarder l'ensemble du tableau d'économie, notamment l'endettement extérieur, vis-à-vis du reste du monde. Si vous avez une dette publique importante, mais beaucoup d'épargne du côté privé, et c'est notre cas, hein, les Français épargnent beaucoup, il n'y a pas de raison de connaître une crise. Mais attends, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va taper dans l'épargne des Français ? Je ne sais pas. De ce point de vue, comparer la France d'aujourd'hui à la Grèce du début des années 2010, ce que moi-même j'ai fait, n'a aucun sens. L'accroissement annuel de l'endettement extérieur de la France est aujourd'hui de 1% du PIB, alors que la Grèce à l'époque c'était 15%. La crise des dettes souveraines européennes à cette époque était en réalité une crise de l'endettement extérieur. Voilà. Il semble dire que c'est moins grave pour nous parce que les Français ont des sous. Ok. J'aime bien cet article. Hein. Et il y a François Eckel qui répond et il est très en colère. Je suis en train de le lire. Lui dit qu'en fait, laisser filer la dette au-delà du niveau d'aujourd'hui, c'est quand même dangereux. Parce qu'en fait, on ne maîtrise pas la réaction des gens qui nous prêtent. Et qu'on peut penser ce qu'on veut, nous, en interne. Si à l'extérieur, ils estiment que l'économie française n'est plus digne de confiance, c'est chaud, quoi. Ah, quelqu'un parlait de la charge de la dette. Hein. Les intérêts de la dette, c'est gigantesque. Et Le Monde dit une autre façon de dénoncer l'ampleur de la dette publique est de pointer l'importance du remboursement de la dette. C'est quand même 50 milliards d'euros, rien qu'en intérêt en 2023. C'est le deuxième poste budgétaire après l'éducation. Vous vous rendez compte, c'est gigantesque. Il limiterait nos marges de manœuvre budgétaires alors que les besoins santé, éducation, défense, climat sont énormes. Est-ce que cet argument est valable? Cet argent qu'on donne à nos créanciers, hein? Les gens disent « Ah, c'est pas grave d'être dans le chat, de voir de l'argent, la dette, ça s'annule. » Bah, déjà, la dette, tu payes des intérêts, quoi. Donc, évidemment, cet argent, tu ne le mets pas ailleurs. Tu ne le mets pas sur l'éducation, tu ne le mets pas sur la justice, tu ne le mets pas sur la police, tu ne le mets pas en sub pour Samuel Etienne. Bon, c'est pas terrible, quoi. Et François, donc celui qui est plutôt pro-dette, c'est François comment, Gérolf ? François Gérolf, il dit « Cet argument ne tient pas debout. » Alors là, où est-ce qu'il est ? Attends. J'étais trop loin. Vachement intéressant. Ah, il est où ? Attends, je l'ai perdu. Voilà. On laisse entendre que si on n'avait pas de dette publique, on aurait 50 milliards d'euros en plus. Il dit ça marche. Et Le Monde dit c'est pas vrai ? Il dit non. La charge de la dette. Est de 50 milliards d'euros, ok. Si l'inflation est de 2%, le coût réel de l'endettement en termes réels. Ah, je comprends. La charge de la dette, c'est 1,7% de la dette. Si l'inflation est de 2%, le coût réel de l'endettement est donc en termes réels négatif de 0,3%. Ce qui veut dire que s'endetter nous rapporte de l'argent. Hein ? Attends, là, faut que j'enlève le bonnet. Là. S'endetter nous rapporte de l'argent. Attends, l'inflation. La charge de la dette est de 1,7%. L'inflation est de 2%. Le coût réel de l'endettement est donc en termes réels négatifs de 0,3%. Ce qui veut dire que s'endetter nous rapporte de l'argent. La comparaison entre le budget de l'éducation nationale et la charge d'intérêt de la dette n'a pas de sens. Donc il dit que c'est bien d'emprunter parce que ça nous permet d'investir et de dépenser, c'est ça ? Avec une inflation faible ? Avec une inflation faible. Bon. Ouais. Ok. Pourtant, dit Le Monde, 50 milliards d'euros ont bien été dépensés. Et là, l'économiste prend l'exemple des particuliers. Ceux qui ont emprunté pour s'acheter un logement dans les années 70 ou 80 en France ont déboursé de l'argent pour honorer les honorances de les échéances de leurs emprunts. Et pourtant, du fait de l'inflation, ces emprunts ne leur ont rien coûté. Oui, parce que l'inflation était beaucoup plus forte que les taux d'intérêt. Ok. Il faut prendre conscience qu'il y a une sorte d'impôt invisible que les économistes appellent la taxe inflationniste. Merci beaucoup, Mélopolo. 30 mois d'abonnement, tu régales. Ok. Exemple. Mais là, négatif. Si vous gagnez 2,5% pour un livret et que l'inflation est de 2%, en vrai, tu touches que 0,5%. Et l'inverse est vrai aussi. En gros. Ok. Bistouflex, joli pseudo, me donne un exemple. Samuel, j'emprunte 10 millions en 2025 avec les intérêts, j'aurai remboursé 13 millions en 2035, mais avec l'inflation, mes 10 millions en 2025 seront équivalents à 15 millions en 2035. Je comprends. À condition que tes revenus aient augmenté parallèlement. Et que l'inflation soit faible quand t'empruntes. Forte. L'inflation, c'est une vraie plaie. J'ai une tante qui en a une au pied, me dit Le Monde, et ça lui faisait très mal. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que va répondre François Eckel, ça m'intéresse. Alors, François Eckel répond, parce que peut-être qu'il n'est pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, le taux d'intérêt réel hors inflation est de zéro et il est inférieur au taux de croissance. Il est d'accord avec ça. Très bien. Mais encore une fois, est-ce que cette situation se maintiendra pour toujours ? François Eckel, il dit, t'as raison en vrai. T'as raison. Ok. Mais est-ce que ça va durer toujours ? Hein ? Si les acteurs sur les marchés financiers commencent à s'inquiéter, ils feront monter le taux d'intérêt et un cercle vicieux pourra s'enclencher. C'est toujours pareil en fait. Il y a une donnée qu'on n'a pas, sur laquelle on n'a pas la main, c'est la confiance que la France inspire ou pas aux investisseurs étrangers. Ceux qui nous prêtent de l'argent. L'article est hyper intéressant. C'est un peu pointu, mais pour le coup, c'est vraiment intéressant. Si ça vous intéresse, c'est dans Le Monde, dans la dernière édition du Monde. Article signé Alain Boeuf-Méry et Pascal Richet. Alors, je ne lis pas tout l'article, mais je lis encore ce passage sur pourquoi la France ne parvient pas à stabiliser sa dette publique. Ça me semble intéressant. Alors, François Eckel dit le déficit public ne cesse de croître depuis une cinquantaine d'années en France et la dette publique correspond à quoi ? À une accumulation de déficit, ça vous le savez. Hein. Les dépenses ont beaucoup augmenté et en face, les recettes jouent aux montagnes russes. Pour réduire le déficit, on augmente les impôts, ce qui entraîne un ras-le-bol fiscal. On réduit les impôts, les recettes diminuent, c'est un cycle continuel. Ok. La France a beaucoup de mal à gérer les cycles économiques, dit-il. Quand un pays entre en récession ou que sa croissance ralentit fortement, il est de bonne politique de faire grosser, de laisser grossir le déficit, voire de l'accroître pour financer ce qu'on appelle un plan de relance. Ça, la France sait très bien le faire. Quand ça ne va pas, on laisse les dépenses publiques filer, ça soutient la croissance, ça on sait très bien faire. Mais quand l'économie repart, ça c'est un truc que j'ai souvent entendu, ce que ne sait pas faire la France, c'est qu'on ne sait pas baisser les dépenses. On ne sait pas ou baisser les dépenses ou augmenter les recettes de façon à réduire le déficit. C'est-à-dire qu'on sait faire filer le déficit pour une bonne raison, soutenir l'économie, mais quand ça va mieux, on ne sait pas réduire ce déficit. Voilà. Beaucoup moins que de nos voisins comme l'Allemagne, par exemple. Alors, François Gelf, l'autre, dit non, c'est plus compliqué que ça. À chaque fois que la France a essayé de réduire les dépenses publiques ou d'augmenter les impôts, elle a eu des problèmes. Elle a déprimé la croissance, ce qui fait baisser les rentrées fiscales. Au final, la France n'a pas réussi à stabiliser la dette. Depuis 50 ans, le déficit... Oui, c'est vrai, le déficit a augmenté. Voilà, c'est vrai. Mais en face, le taux d'épargne privée, considérable en France, il faut savoir que les Français épargnent énormément, c'est lui aussi accru. S'il y a trop d'épargne, c'est un problème, c'est vrai. Si les Français épargnent trop, ce qu'on peut comprendre, épargner, c'est se protéger. C'est, on se dit, en cas de coup dur pour soi ou pour ses proches, on met de l'argent de côté. Mais si on épargne, cet argent qu'on a gagné, voilà, on ne réinjecte pas dans le circuit de l'économie. Et donc cet argent qu'on met de côté, il ne fait pas travailler les entreprises par la consommation, par les achats de biens divers et variés. S'il y a trop d'épargne, c'est aussi un problème, c'est ce que veut dire l'économiste, par ses dépenses. L'État, du coup, corrige un petit peu la situation, même si ce n'est pas une intention volontaire. Si on distribue mieux les richesses, il y aura plus de dépenses. Ouais, Diange, normalement, oui. Parce que les ménages les plus modestes épargnent peu. Oui, techniquement, oui. Voilà. À lire dans Le Monde, les amis, quand je vous dis souvent que c'est un journal de qualité, je trouve que là, pour le coup, on a un truc assez intéressant. Il n'est pas sûr que ça nous aide vraiment, à nous, pauvres citoyens, à nous dire, bon, est-ce que c'est bon d'avoir de la dette ou pas ? Mais en tout cas, vous savez ce qu'en pensent ces deux économistes. J'essaie de rebrancher ma tablette. Hop. Je crois qu'elle a rendu l'âme. C'est pas grave, j'en ai acheté une autre. Je crois qu'à la Fnac, j'en ai à côté. Ah ouais, nous avons bien lâché. Merci Talon qui vient de lâcher son sub pour que je puisse m'acheter un nouveau boîtier d'acquisition. Merci à toi. Pourquoi elle est morte comme ça ? C'est bizarre. Bon, en même temps, elle a 3-4 ans celle-là. Ouais. Ouais. Et Talon me dit que c'est effectivement pour que je m'achète un nouveau boîtier. Il s'allume, mais c'est tout. Bizarre ça. Parce que celui qui, par exemple, la caméra, elle passe par un boîtier d'acquisition aussi qui marche très très bien. Ouais. Bizarre, bizarre. Peut-être qu'il m'a lâché, peut-être qu'il est trop vieux. C'est pas très grave en vrai. C'est peut-être un câble et pas le boîtier. Ouais, peut-être. Non, le OBS, j'ai relancé, ouais. C'est vrai que non, le câble, j'ai tenté il n'y a pas longtemps. Non, oh, mais c'est bon, c'est pas très cher un boîtier de gâteau. Alors ensuite, on avait un article du Figaro sur Los Angeles. On va essayer de comprendre ce qui se passe au niveau des incendies. Je vais vous le chercher tout de suite. Hein. Sur les collines de Los Angeles, les ruines fumantes d'un cataclysme. Puisqu'on n'a pas été en vue de presse ces derniers jours, donc je ne vous ai rien lu sur Los Angeles. Sur les collines de Los Angeles, les ruines fumantes d'un cataclysme. 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 Je vais trouver l'article, et comme je suis abonné, voilà. 12 janvier, les ruines des maisons, c'est le même. Ouais, c'est celui-là. Il a même été actualisé. Ok, super. Et comme je suis abonné, ah, faut que je me connecte. Déjà abonné, connectez-vous. Oh, Samuel Etienne. Ouais, ça c'est moi. Le mot de passe. Et j'y ai. Et je l'ai. Oh là, je suis trop fort. Hop, le voici. Alors, dans les rues de Los Angeles, un cataclysme qui évoque une éruption volcanique. C'est cet article-là. Alors que l'incendie s'étend toujours, parce que c'est pas terminé, hein, les Californiens découvrent hébétés les ruines fumantes de leur maison. C'est vrai que les images sont assez... Waouh, incroyable. Les ruines des maisons... Alors moi, je vous avoue, je me suis pas trop penché sur la situation. Je sais pas trop ce qui s'est passé. On va découvrir un peu. Les ruines des maisons fument encore sur la plage. L'autoroute côtière Pacific Coast Highway, c'est les décors de films, hein, littéralement, n'a pas arrêté l'incendie qui ravage depuis quelques jours Los Angeles. Attisées par les vents violents, les flammes descendues des hauteurs de Pacific Palisades ont traversé la chaussée et ravagé les maisons de Malibu. La plage la plus célèbre du monde, non, c'est pas vrai, c'est Copacabana, est bordée de leurs restes calcinés. Et Port Blanc aussi, à qui bon. Le ressac ramène sur le rivage des planches brûlées, des vilaines traînées brunes flottent à la surface de l'océan. Sur les pentes, l'ampleur du cataclysme évoque une éruption volcanique, carrément. Sur cette côte californienne où le prix de l'immobilier atteigne des sommets vertigineux, les bâtiments modernes laissent beaucoup moins de prestige qu'à Pompéi. Les maisons de bois et de contreplaqué ont presque entièrement disparu. Ne demeurent que des cheminées noircies qui se dressent dans le ciel. On reconnaît les carcasses des voitures, une Porsche roussie par le feu, des squelettes de motos. Les palmiers brûlés se dressent comme des dessins à l'encre de Chine sur le ciel limpide. Les poteaux téléphoniques ont la consistance du charbon. Les fils jonchent le sol. Quelques jours après l'incendie, les pompiers arrosent encore les ruines fumantes. Des ouvriers commencent à réparer les canalisations, etc. etc. Donc ça c'est moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comprendre ce qui s'est passé. Donc là, il y a un article qui nous détaille tous les dégâts. Dans les pentes, les villas valant des dizaines de millions de dollars avec des vues imprenables sur le Pacifique ont connu des sorts aussi variés que leur style architectural. Certaines ont échappé au feu, d'autres pas. Quoi. Hein, des vedettes d'Hollywood ont dû fuir leur maison entourée par les flammes de la même façon que les habitants des immeubles de Pasadena, hein, dans les quartiers un peu plus modestes de l'autre côté de Los Angeles. Alors j'ai lu que pour certains c'était une catastrophe puisque certaines maisons n'étaient pas assurées, puisque les assureurs américains avaient énormément augmenté les primes d'assurance ces dernières années et certains n'avaient pas réussi à retrouver d'assureurs. Donc certains ont perdu leur maison et littéralement perdu la maison qui ne pourra pas être reconstruite. Quoi. En tout cas, ils ne seront pas remboursés de l'assurance. Avec la flambée des prix de l'immobilier et les incendies de plus en plus fréquents, dans la région. Les assurances sont devenues plus coûteuses. L'année dernière, notre assureur, State Farm, nous a annoncé qu'il cessait de couvrir notre maison. Nous avons fini par négocier un nouveau contrat, mais la police d'assurance est passée de 4 000 à 11 000 $. Alors je sais aussi que contrairement à la France, il n'y a pas d'obligation d'entretien, des broussailles, tout ça autour des maisons, et que c'est une des raisons pour lesquelles aussi pourquoi c'est parti si vite. Alors, il y a un bilan là, qui est un bilan provisoire, bien sûr. Le bilan des incendies se montait samedi à 16 morts, 180 000 personnes évacuées, 10 000 maisons et autres bâtiments détruits et 120 km² brûlés. Les dégâts sont estimés déjà à plus de 50 milliards de dollars. Alors que les incendies brûlent encore, la polémique a déjà commencé. La maire démocrate de Los Angeles, qui est une femme, s'appelle Karen Bass, a été critiquée pour son absence de la ville, elle n'était pas là. Pendant le premier jour crucial de la crise, alors qu'elle se trouvait au Ghana pour l'investiture du président de ce pays. Les démocrates accusent. Pourquoi ? Parce qu'elle est républicaine, c'est ça ? Ben non. Alors je pense qu'il y a une coquille. Attends, parce qu'elle est démocrate et les démocrates l'accusent ? Attends, les démocrates accusent la mère démocrate ? Je pense qu'il y a une petite coquille, non ? C'est bizarre. Bon, bref. C'est bizarre. Bref. Elle est démocrate, hein, on est d'accord. Ouais, je pense que peut-être les républicains, je sais pas. Les démocrates l'accusent d'avoir réduit le budget des pompiers pour financer l'augmentation des effectifs de la police. À moins que les démocrates soient aussi fâchés avec cet élu démocrate, c'est possible. Peut-être une coquille, je sais pas. Ils mettent aussi les incendies sur le compte du changement climatique. Les républicains, eux, bah non, manifestement, ça va être ça, accusent de leur côté les politiques de diversité, égalité et inclusion imposées aux pompiers de Los Angeles au détriment de leur équipement et de leur entraînement. Bon, manifestement, les démocrates sont fâchés, les républicains aussi. Ok. Merci pour ceux qui sont allés vérifier, elle est bien démocrate. Ils accusent aussi les politiques écologistes californiennes d'empêcher la coupe de la végétation, je vous en parlais tout à l'heure, qui alimente ensuite les incendies. Trump est intervenu pour attaquer le gouverneur de l'État, Gavin Newsom, qui est un démocrate. Il l'a accusé d'avoir empêché de remplir les réservoirs d'eau pour, à la place, protéger les poissons dans les rivières de San Francisco. Je crois que ça a été débunk, ça, mais en tout cas, l'accusation, elle est là. Alors, le gouverneur a ordonné une enquête sur l'alimentation des bouches d'incendie de Los Angeles, parce que manifestement, ça n'a pas très bien marché. Karen Bass a expliqué que les incendies étaient des événements sans précédent, que les systèmes de lutte contre l'incendie n'étaient pas adaptés de toute façon pour faire face à ce type. Oui, c'était debunk. Ok. LA n'utilise pas cette source d'eau. Merci, Simbach. Donc, ça a été debunk. N'était pas adaptée pour faire face à ce type de dévastation massive. Elle a souligné que la force du vent qui a attisé le feu et empêché les avions d'intervenir avait été des facteurs déterminants. Et les pompiers ont été débordés. Bon, vous avez compris, parce que c'est ça qui nous intéresse. Comment ceci a-t-il été rendu possible ? Certains disent que les moyens pompiers ont été diminués. Certains disent que les politiques de protection de l'environnement ont rendu la région plus exposée au risque d'incendie. Certains dénoncent une irresponsabilité politique dans les choix qui ont été faits. Et d'autres disent que c'est la faute au réchauffement climatique, c'est la faute au vent qui a été gigantesque et que c'est sans précédent. Mystérieux dit, mais ils ont la mer, ils ne peuvent pas la pomper. Très bonne question, je n'ai pas la réponse, mais c'est une très bonne question. Ouais. Le Théban me dit que les agriculteurs industriels prélèvent énormément d'eau. À cause du sel ? Ouais, mais l'eau salée stérilise les sols ? Ouais, mais pour éteindre un feu, on s'en fout, non ? Non, c'est pas, je connais rien. Ah, ok. Bon. Utiliser de l'eau de mer détruirait les sols et les équipements. D'accord. Ça tuerait. Ok, vous êtes très nombreux à dire que ça tuerait les sols, en fait. De telles quantités peuvent notamment affecter le sol et nuire à la régénération des végétaux. Ah, ça niquerait complètement le sol. Ok, d'accord. Merci Lazareth pour cet éclairage, parce qu'on se posait la question. Karen Bass, est démocrate, mais elle n'est pas très populaire auprès des autres démocrates de Californie, particulièrement ceux qui ont des velléités nationales. Merci le chat. Le sel abîmerait trop les tuyaux, les engins de pompiers. Bah, le sel, c'est pas bon pour les tuyaux de façon générale, je crois. je crois, hein, j'ai lu ça. Merci Arthur Rizio pour le soutien. Merci Toki pour le Prime. Ok. Donc, vous l'avez compris, le sens de la polémique, c'est est-ce que c'est une responsabilité politique humaine ou est-ce que c'est un truc, on n'y peut rien, c'est un peu, c'est l'environnement et qu'on a été un peu débordé, quoi. Qu'est-ce que les politiques autour de l'inclusion viennent faire dans cette histoire, me demande MRTSN. Qu'est-ce que disent les politiques là-dessus? Ils disent qu'en fait, les politiques de diversité, égalité et inclusion imposées aux pompiers de la région l'ont été au détriment de leur équipement et de leur entraînement. C'est-à-dire qu'on a privilégié, je sais pas, peut-être là au niveau de la dépense, au niveau des budgets dépensés, je sais pas du tout. C'est ce que dit certains politiques. Greg Vardak dit privilégier l'inclusion avant la compétence. Bon, en tout cas, c'est une accusation. C'est pas forcément vrai. Hein. Ok, bon, voilà pour Los Angeles. Je trouve que cet article résume assez bien les questions qu'on peut se poser sur ces incendies gigantesques. Ouais. On a un dossier dans l'humanité, j'espère que je vais y accéder. Parce que clairement, mon boîtier d'acquisition a rendu l'âme. Incroyable ça. Je rebranche tout. Sinon, je vais le chercher sur Internet. Je ne sais pas si j'ai accès à l'UMA sur le web. Non, il ne veut pas. Tu ne veux pas? Joe va m'engueuler. Il m'a dit, tu devrais acheter un nouveau boîtier. J'ai fait le rat. J'ai dit, non, c'est bon, il tient. Il ne tient pas. Il ne tient pas du tout. Je dis n'importe quoi. Bon, je vais essayer de le chercher sur Internet. Alors... le parrain de l'extrême droite mondiale, Musk. Ça, c'est l'humanité. Incroyable. Je vais en commander un tout à l'heure. Là. Juste après la revue de presse, j'ai un Teams et après, j'irai en acheter un autre. Parce que là, son boîtier d'acquisition, ça va être compliqué. Hop, mondial. Et ça, c'est dans l'humanité. Alors, je l'ai... Je l'ai. Je l'ai et je suis déjà... Je vais me connecter. Hop, Samuel, c'est moi. Ok, le mot de passe que vous connaissez tous déjà. Une époque, je le tapais en direct. Mot de passe. Alors l'humanité, ils sont formidables, au niveau internet, c'est pas voilà. C'est pas le journal le plus facilement accessible. Hein. Voilà. On devrait y arriver. Hop, connecté. J'ai le mot de passe à l'air bon. Je crois que j'ai l'article. Je l'ai. Alors, ça c'est assez intéressant. Voilà. Sur X, sur l'ancien Twitter, la chef de l'extrême droite allemande, je crois que c'est le parti AFD, Elon Musk réécrit l'histoire du nazisme, et je vous montre la une de l'UMA ce matin. Hop, je vous la montre ici. Regardez. La une de l'UMA, voilà, avec un Musk qui fait un peu peur. Le parrain de l'extrême droite mondiale, voilà, l'humanité accuse Elon Musk, le milliardaire, l'homme le plus riche du monde, si je dis pas de bêtises, d'être le parrain de l'extrême droite mondiale. Alors c'est vrai qu'il soutient l'AFD, hein, il soutient le parti d'extrême droite allemand, l'AFD. Voilà. Dans une conversation publique avec la chef de l'AFD, Alice Weidel, Elon Musk a réitéré son appui au parti xénophobe allemand qui entretient une intolérable confusion entre nazisme et communisme. Et on va en parler de ça ce matin. Je rends mon iPad. Hop, regardez l'article qui est là. Pour le patron de SpaceX et Tesla, les nazis... Ah, il a dit, Musk. Les nazis sont des gens de gauche. Alors historiquement, les historiens s'accordent pour dire que le nazisme, c'est l'extrême droite. Musk dit, manifestement il l'a écrit, il l'a dit, que les nazis sont des gens de gauche qui ont nationalisé l'industrie. Bon. la plupart des historiens ne sont pas d'accord avec cette affirmation de M. Musk. Lors d'une discussion publique sur le réseau social, sur son réseau social, hein, c'est le sien, avec la chef de l'AFD, le milliardaire a laissé celle-ci dire que les nazis étaient des socialistes et des communistes, ce qui historiquement est un contresens. En Hongrie, en Roumanie, en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, il se fait le parrain de l'extrême droite. L'humanité est un journal de gauche, bien sûr. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas l'info. Mais affirmer que les nazis étaient des gauchistes, historiquement, évidemment, ça n'a aucun sens pour celui qui a bossé un tout petit peu ce sujet. Anticommunisme, antisémitisme, révisionnisme demeurent les mamelles de l'extrême droite. La preuve, ce jeudi, donc c'était jeudi dernier, avec une discussion publique sur le réseau social X, dont Musk est le propriétaire, et la patronne de l'AFD, le parti d'extrême droite allemand, Alice Weidel, parti qui caracole en deuxième place dans les sondages pour les prochaines législatives du 23 février prochain. Vous savez qu'en Allemagne, il y a une crise politique, on parle beaucoup de la France, mais vous avez une énorme crise politique en Allemagne avec la coalition anciennement au pouvoir entre les libéraux, les sociodémocrates et les écologistes qui a explosé, et donc il y a de nouvelles élections. Et je crois que ce seraient les conservateurs de la CDU qui seraient donnés en tête, avec juste derrière le parti d'extrême droite. On entend aussi cette fameuse dirigeante de l'extrême droite allemande se laisser aller à une réécriture de l'histoire de son pays. Deux points, ouvrez les guillemets. Pendant le Troisième Reich, les nationaux socialistes, c'est le NSPAD, étaient socialistes, ce qui est faux, déclare-t-elle. Et Elon Musk l'interrompt. Oui, ils ont nationalisé l'industrie, c'est dingue. Et Alice Weidel répond, oui, absolument, Hitler était communiste. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Ça, c'est un truc, ça. Hitler était communiste. Et il se considère comme socialiste. Attends, socialiste ou communiste ? Bon. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont financé des entreprises privées, ils ont demandé des taxes énormes, ils ont nationalisé l'industrie tout entière. Bon. Ça, c'est les affirmations des uns et des autres. Elle véhicule ensuite des clichés antisémites, décrivant comme groupe qui occuperait des positions hautes dans la société les juifs, qui étaient très éduqués, très cultivés, couronnés de succès, des riches dans l'Allemagne d'ailleurs. Hitler a donc attisé la jalousie contre eux et pris des mesures socialistes contre eux. Le fameux dangereux gauchiste Hitler. Expropriés, les juifs ont été exterminés. À aucun moment, fort du réseau social X aux 200 millions d'abonnés, le patron de SpaceX et Tesla est maintenant conseiller à l'efficacité gouvernementale de Trump, ne reprend son interlocuteur. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'humanité reproche à Musk, et en plus, il laisse dire des trucs comme ça. Quoi. Alors, l'humanité rappelle qu'historiquement, dire des nazis qu'ils ont nationalisé l'industrie est un mensonge. Voilà. Le professeur d'économie à l'université de Barcelone, Germa Bell, explique que les nazis ont privatisé tout ce que le service public avait dû nationaliser pendant la crise de 1929. Voilà. Il y a seulement deux entreprises ferroviaires et une compagnie aérienne qui ont été renationalisées par les nazis. Les nazis rappellent cet historien, qui ont éradiqué le mouvement ouvrier et attaqué l'URSS, sont bien loin du socialisme et du communisme. Dans une ère où l'extrême droite adopte une ligne libérale en économie tout en cherchant à se défaire de son passé fasciste, Elon Musk apporte à cette extrême droite allemande, estime l'humanité, un vernis technologique, un vernis libertarien, qui lui permet de se refaire une virginité et de se forger une nouvelle identité. Alors Musk, ça on l'a déjà vu, lu ici, c'est documenté, se lance à fond dans la bataille européenne. C'est intéressant de voir que il a plusieurs nationalités, il est américain, il est sud-africain, mais à ma connaissance, il n'est pas allemand, il n'a pas la nationalité allemande, s'engage à fond dans la bataille européenne. Moi, j'ai tendance à dire, c'est un peu étonnant qu'un homme d'affaires étranger s'implique à ce point dans la vie d'un pays. Ça pose une question quand même. Le patron de Tesla était présent le 10 décembre lors de la rencontre entre Trump et Viktor Orban, le premier ministre ultra-conservateur hongrois. Oui, il est canadien aussi. Il a qualifié de dictateur les juges roumains qui ont annulé la victoire à l'élection présidentielle de Calin Georgescu en faisant état d'ingérence russe dans la campagne. Bon, il intervient aussi sur la vie politique britannique. Elon Musk développe une vision du monde survivaliste et nataliste qui s'accommode de la vision de l'extrême droite. Le mat dit pas Elon Musk égale extrême droite. L'humanité dit la philosophie, la vision du monde de Musk s'accommode bien de la vision de l'extrême droite. Il est obsédé par exemple par la fin des civilisations, ce qui a mis fin à la plupart des civilisations, le bas taux de natalité. Musk estime qu'on devrait faire plein d'enfants. Explique ce père de 11 enfants, une préoccupation qu'il partage avec les extrêmes droites pour le coup, qui participent à des événements communs tels que le sommet démographique de Budapest, en Hongrie. Voilà. À cela, le patron de SpaceX ajoute une touche technologique et prépare la colonisation de la planète Mars au cas où la Terre ne serait plus vivable. Ouais, 11 enfants. Après, il fait ce qu'il veut. Le patron de X cherche à obtenir de la commission du Parlement européen qui n'oblige pas les réseaux sociaux à trop de modération contre les propos discriminatoires ou les informations erronées, fake news. Il escompte bien qu'une fois au pouvoir le 20 janvier, Donald Trump, dont il a financé la campagne présidentielle à hauteur de 270 millions de dollars, s'engage dans un bras de fer avec Bruxelles sur le sujet. Voilà. Donc, mais ça, les interventions de Musk sur la politique européenne, bon, c'était pas très très nouveau, mais ce qui était intéressant dans cet article, c'était le soutien à l'extrême droite allemande et le fait que, surtout, lors d'une discussion publique avec la chef de l'AFD allemande, Trump ait dit des énormités historiques et laissé dire cette femme des énormités historiques telles que les nazis étaient en fait des communistes. Voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est dans l'humanité. Il est là le problème, Trump est redevable à Musk. Oui, quand tu investis combien ? Quand tu investis 270 millions de dollars dans une campagne, t'espères un petit peu un retour sur investissement. Après, tous les candidats à la présidentielle aux États-Unis fonctionnent de la même façon, avec des dons privés. Hein. Il reste 7 minutes ? Quoi ? Ah ouais, putain, j'avais dit que j'ai fini à 45. Ah putain, ça va super vite. Merci, Framboise. Voilà. Je me demande si les démocrates n'avaient pas un budget de campagne même supérieur à celui de Trump, essentiellement financé par le privé. Mais après, peut-être que c'est le plus gros contributeur de Trump quand même. Quoi. Bon, ça, en France, c'est interdit. Hein. En France, on estime... Bien sûr, j'oublie pas les tuches, Alexandra. Donc là, je vais pas tout pouvoir vous faire, mais je voulais vous parler aussi de TikTok qui va peut-être être bientôt interdit aux États-Unis, c'est un vrai sujet. Ou alors TikTok qui appartient à des capitaux chinois va être obligé de se vendre pour les États-Unis à une entreprise américaine. Donc déjà ça c'est très très tendu. Ça c'est dans les échos. Et du coup hop, je vais vous lire l'article sur la French Tuche puisqu'il y a un nouveau tuche. On va finir avec ça. Parce que j'ai un petit Teams à 11h45. Enfin à midi, mais du coup je vous laisse à 45. La French Tuche. Bah oui, c'est la priorité ça. C'est quand même plus important que la dette. Parisien, le Parisien. Hop, le Parisien. Ah, je l'ai pas. Actualité. Moi, ouais, je l'ai. Alors, manifestement, ça... Attends. J'ai pas le même article en ligne, c'est bizarre ça. Attends, le Parisien. C'est pas tout à fait le même. Le Parisien. Se connecter, je me connecte. Samuel, c'est moi, oui. Le mot de passe. J'espère que vous ne le voyez pas. C'est bon. Des frites, exactement. Alors, et si je suis sur le site du Parisien et que je cherche... Ah, putain, il n'y a pas de moteur. Pardon, excusez-moi. Ah si, tuche. Des frites. Ah, ils n'ont pas mis en ligne le même article. Ils ont casse-couille en vrai. Si j'en ai un autre, ok. Peut-être pas tout à fait le même, mais du Parisien. Alors, ils disent que, c'est un, que le film est réussi. Hop, God Save the Tuche. Donc, c'est le nom de ce... Là, c'est, le quoi, c'est le combien de sième volet? Au moins le quatrième ou le cinquième volet, non hein? God Save the Tuche. On a vu le cinquième film de la saga réalisé par Jean-Paul Rouve et il est très réussi. La famille Tuche sera de retour au cinéma le 5 février. Bon, on m'avait même proposé, moi, récemment, de présenter l'avant-première à Paris. Et puis, je ne pouvais pas. C'est le cinquième? C'est le cinquième. Ce nouveau volet réalisé par Jean-Paul Rouve, ah, c'est Jean-Paul Rouve, c'est le réalisateur, se révèle être très fidèle au précédent avec quelques gags délirants particulièrement efficaces. Ah oui, c'est le cinquième. Donc ils sont en Grande-Bretagne cette fois. Le scénario de God Save the Tuche tient une seule phrase, les Tuches vont en Angleterre. Il manque Kev Adams dans le film? Ou pas? Ou pas? Ou pas? Les Tuches vont en Angleterre. Alors il y a bien des prétextes. À ce voyage, Gigi, le fils de Stéphanie, est sélectionné pour un stage de foot à Londres et Jeff et Cathy sont invités à rencontrer le roi Charles III. Voilà. Mais en réalité, on se fiche pas mal des rebondissements footballistiques et protocolaires. L'intérêt de ce Tuche 5, ce sont les gags qui s'enchaînent et les inconditionnels des frites, des frites, des frites. Il y a une bonne annonce là ?
Des frites !
Des frites, j'espère que c'est pas trop fort. Attention, le son. Trailer.
Des frites. Papa, le roi t'invite avec toute la famille dans son château en Angleterre.
Dad, en Angleterre, on roule à gauche.
Moi, je suis français, je roule à droite.
Ah, c'est du suicide.
C'est con. C'est con parce qu'en fait, c'est une blague de café, mais ça fonctionne. Ils sont forts. Ils sont très forts parce que moi, je pense que ça tient à la qualité des acteurs. Le mec qui dit « moi je suis français, je roule à droite », c'est con en vrai. Mais parce que c'est Rouve, parce que c'est Nanti, parce que c'est tout ça, voilà, ça marche quoi. Moi j'adore les Tuches.
Pas du tout, c'est du bon sens. Imagine t'as un français juste en face de nous là, qui arrive, il sera sur sa droite. Donc là, accident évité.
Alors, faut qu'on se mette à la culture anglaise.
C'est ça Big Ben.
Avant le week-end chez les Winxor.
Les Winxor.
Un petit coucou à ma commu.
Coucou.
Fuck you.
Hein?
Voilà.
Oh putain, c'est con, oui, c'est con. Mais je pense que ça marche. Fuck.
Ça passe pas. Si, bien sûr, ça passe. Je la connais, ma Nevada. J'ai le combat dans le slip.
Non, y a pas, ça passe pas.
Si, ça passe.
Voldemort.
Voldemort? Ah, c'est bon, c'est con, j'adore, moi. Personnellement, je me régale. Oh, le pauvre monsieur. On a trouvé le public des Tuches. Moi, j'adore les Tuches.
Oh, regarde, il y a le roi.
J'ai l'impression de faire la queue comme à la sécu.
Ladies and gentlemen, Sa Majesté la Reine.
Jeff!
A perdu connaissance.
Mais c'est pas possible. T'as quoi dans ton cerveau, Jeff Tuche?
Tous les invités vont être interrogés par Scotland Yard.
Nom, prénom, qualité.
Jeff Zizou Tuche. En qualité.
Ah oui. J'adore.
Nia. Je suis rusé comme un tout corps.
Date de naissance?
Jour de mon anniversaire.
Attendez, stop! Important. J'ai l'oreille absolue aussi. Fa dièse.
Tuche family, nous allons apprendre les arts de la table. Commençons par les couverts. On utilise d'abord ceux qui sont le plus à l'extérieur.
À l'extérieur de l'assiette, pas de la maison.
Ah ouais, je vous disais aussi. Tu vas manger ton dessert quand ta cuillère est dans le jardin.
Bon, je suis désolé, moi j'aime. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça tient à la qualité des acteurs. On va pas du scénario, hein. C'est sûr, hein. Mais c'est des immenses acteurs, Rouve, Nanti, tout ça, Nado, c'est des grands acteurs. Et moi, j'aime, je les ai tous vus, moi, les Tuches. Voilà. C'est l'âge, non, même quand j'étais jeune. Non, j'assume, merci, Fleur et Bleu. Le temps est passé tellement vite avec vous. Bon, 2h34, c'est pas un gros stream, non, en vrai. Mais bon, j'ai une réunion à... Oui, j'assure qu'on va jouer ce soir. D'ailleurs, je m'en... Non, mais c'est 12h, mon Teams. Mais donc, ça, je suis encore dans les temps. Non, mais je m'en veux d'ailleurs parce qu'en plus, moi j'ai un souci le soir, c'est que je ne peux pas lancer. Moi j'aimerais lancer à 19h mes lives du soir. Voilà. Mes lives de gaming et je ne peux pas. Je ne peux pas parce que bah, en fait, je tiens à garder un équilibre avec ma vie de famille. Moi, je pense que ce serait mieux lancer mes streams à 19h, 19h30. Quoi. Et le problème, c'est que je tiens aussi à être là pour mes enfants le soir, à donner un petit coup de main sur les devoirs, d'être là pour le dîner, d'être là pour le lavage des dents. Les dents, c'est très important. Moi, je suis un peu un maniaque du lavage des dents. Et les emmener jusqu'au dodo, puisqu'à 4 et 8 ans, ils vont se coucher un peu tôt, ce qui me permet de lancer vers 20h30, quoi, au plus tôt. Quoi. Donc, prends une gouvernante. Fais péter ton sub. Il y a Zad TV qui dit prends une gouvernante. Il n'est même pas sub. Si tu sub et d'autres, tu pourrais prendre une gouvernante. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je ne lance pas plus tôt. En vrai, j'aimerais le faire. Mais je m'en excuse, je ne peux pas. Quoi. Voilà. Prends un autre mari pour ta femme. Ah non, j'ai une chance inouïe de l'avoir rencontrée, celle-là. Non. Donc, voilà. Donc, bon, on se retrouve ce soir à partir de 20h30 et pas avant. Même si, en vrai, j'aimerais lancer à 19h30. Merci, InsertCoin72, tu régales. Ça rappelle des bons souvenirs, ça. Les jeux vidéo dans les machines, les salles d'arcade, là, on mettait des pièces pour jouer, c'était incroyable, ça. Vous n'avez pas connu, ça. Donc, voilà, 20h30 ce soir. Ce soir, on joue à Cyberpunk 2077. Donc, pour poursuivre l'aventure entamée avec Trixie hier soir, le Samplay est en replay sur la chaîne Twitch pour les abonnés. Et sur YouTube à partir de 17h. Et demain soir, on joue avec Anae et Sunday à The Forest. On sera chacun chez soi, un petit Discord. Let's go. Voilà. Ce soir, Biker, bien sûr, t'es go, like. Et puis mercredi, jeudi, vendredi, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, la semaine suivante, question pour un champion. Donc il n'y aura pas de revue de presse, mais il y en aura une demain matin. Il n'y aura pas de revue de presse. Il y aura du gaming le soir, par contre, en rentrant de question pour un champion. Ouais, The Forest. Et la semaine prochaine. Dans Question pour un champion, Étoile, Rayou, Étoile, après 4 ans et plus de préparation, je pense que jamais un candidat de Question pour un champion s'est autant préparé, Étoile, la semaine prochaine, Rayou, vient jouer dans Question pour un champion. Je ne vous dis pas le jour exact quand même. Voilà, je pense que Rayou vous dira, je lui laisse annoncer le jour. C'est la semaine prochaine. Et voilà. Victoire ou pas, enchaînement de victoire ou pas. Moi, je sais qu'il a le niveau pour être champion, bien sûr, mais le hasard d'une émission, des questions, des thèmes, des autres candidats fait que. Il a annoncé, il a dit quel jour ? Alors, je lui laisse cette annonce de toute façon. Alors, moi, j'y crois très très fort, mais le hasard joue aussi beaucoup, comme dans tout dans la vie d'ailleurs. Et en tout cas, je sais que ce sera un super moment. Diffusion deux mois après. Semaine prochaine, diffusion, enregistrement. Enregistrement réuni. Diffusion fin mars, je pense, à peu près. Voilà, il y a à peu près 2 mois de décalage. Fin mars, début avril. Le champion du moment est solide. Ça n'a aucune importance. Puisque Rayou va arriver la semaine prochaine, il y aura déjà eu 3, 4, 5, entre 20 et 35 émissions déjà, entre le champion actuel et Rayou. Donc il y a peu de chances que le champion enchaîne 20 ou 30 émissions, parce que c'est jamais arrivé, le record c'est 18. Donc le niveau du champion actuel n'a aucune importance. En revanche, la cagnotte est très élevée, elle est autour de 30K je crois. Et donc si Rayou gagnait la cagnotte, il en est capable, il gagnerait la cagnotte, il gagnerait 30K. Voilà. Donc ça va être un super moment, je me réjouis bien sûr, je suis très content que Rayou vienne jouer, ça va être incroyable. N'hésitez pas à regarder l'émission et à venir jouer aussi, je vous attends, n'hésitez pas, c'est hyper simple. De s'inscrire sur Question pour un champion. Ça se passe sur Internet. On vous appelle au téléphone, vous passez les sélections. Ça se fait en 2-2 cette journée, Nicolas. Il déteste que tu dises qu'il a le niveau pour gagner. Bah ouais, mais maintenant je dis ce que je veux. Hein. C'est mon émission. Hein. Les amis, bonne journée. Prenez soin de vous. Je vous retrouve ce soir aux alentours de 20h30. Et merci encore pour ce matin. C'était super. Alors. Ah oui! Rayou déteste que je dise qu'il a le niveau pour gagner parce qu'il préférait que je dise qu'il n'a pas le niveau pour gagner. Ouais, là, je corrige. C'est une merde. Il est nul. Il ne va pas passer le 9 points gagnant. Je pense qu'il ne va même pas me donner une seule bonne réponse au 9 points gagnant. Je pense même qu'il va buzzer un moment et dire un truc qui aura tellement aucun sens que ça en va être gênant. Vous pensez vraiment qu'il préfère ça? Je ne crois pas. Allez, c'est parti, on raid. Ça raconte vraiment n'importe quoi. Qui est en live là? Je regarde qui est en live. Oh, mais il y a tellement d'amis qui sont en live le matin. Anaë est en live ? Oh bah let's go. Elle est où mon Anaë ? Allez là. Allez, très bonne idée. Allez. Anaï, qu'on retrouve demain soir, mardi, est en live. On y va. Très bonne idée. Anaï. Comme ça, elle va vous confirmer. C'est parti. Voilà, allons soutenir une streameuse. En plus, c'est une super streameuse, Anaé. Merci pour ce matin, merci pour la force. Je vais acheter un nouveau boîtier, là. Ça va pas du tout, là. Et on se retrouve ce soir. Ça va être sympa, ce soir. On va se perdre, on va s'oublier dans Cyberpunk 2077. Merci pour tout. À ce soir. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et je vous aime. Ciao. C'est en train de charger, là. Quelques secondes, quoi. Non, pas bisous caresse, bisous câlin, ton Gibbs. Bisous câlin, pas bisous caresse. Bisous caresse, c'est dans un autre contexte. T'es fou, quoi. Non, je dis pas bisous caresse aux viewers. Je dis bisous câlin. C'est dingue, ça. Allez, raide.